Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une Transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affriche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. On retrouve Fabien Delahaye pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind. Nous sommes fin 2011. Il vient de conclure sa troisième saison de Figaro par un titre de champion de France de course au large en solitaire et il s'apprête à passer sous de nouvelles couleurs. C'est la fin d'une première séquence qui a été très bien exécutée et ça en ouvre une seconde au sein de l'écurie Massif, Skipper Massif, puisque du coup là où ça enchaîne bien aussi, jusqu'à les enchaînements se sont plutôt bien passés, parce que du coup tu fais la sélection Massif et t'es sélectionné par.
Mon projet avec Port de Caen, il était top. Hein. C'est sûr que ma première année bisu, elle était plutôt dure financièrement. Ma deuxième année un peu mieux structurée. Ma troisième année vraiment parfaite parce qu'on voyait que les choses s'engageaient dans le bon sens, donc financièrement j'étais plus à l'aise. Je crois que dans l'enchaînement, je passais de 80 000 la première année à 150 la deuxième, à 200 la troisième. Enfin, globalement, c'est un projet qui s'est structuré avec le temps pour finalement donner raison à ceux qui m'accompagnaient.
Tu avais investi au début, ouais.
Exactement. Et puis, forcément, cette année 2011, elle se termine avec une soirée du championnat de France qu'on organise avec mes partenaires pour mettre en valeur tout ça à Paris. Enfin, quelque chose de top. Et puis, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite avec mes partenaires. On a le choix de continuer, mais à la fois, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble. On a fait toutes les courses du circuit Figaro déjà ensemble. On a un titre de champion de France. Et à la fois, il y a une opportunité de faire la sélection Massif. Je me rappelle très bien en discuter avec eux, à se dire, est-ce que c'est un affront pour vous que j'aille faire la sélection Massif ou au contraire, est-ce que ça nous valorise? Et donc, clairement, tout le monde m'encourage à y participer. Et donc, je fais la sélection Massif à Port-Laf. En tant que champion de France sans titre, en plus, j'ai un argument en plus. Mais malgré tout, ça se passe sur comme on la connaît cette sélection, hein, c'est pour faire suite à François Gabart. Il y a Paul qui est déjà en place sur le projet, Paul Meilla. Voilà, moi j'arrive.
On va rappeler que c'est une écurie, hein, il y a deux bateaux.
Ouais, c'est une écurie, il y a deux bateaux avec des sélections qui se décalent, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive toujours avec un skipper en place, il n'y a pas les deux remplacés en même temps. Et puis c'est un projet qui avait démarré avec Gérald Vignard, Éric Perron. Paul, moi, François, enfin Paul, François, moi.
Ils ne prennent pas de débutants, quoi. C'est pas une filière de réussite.
Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de bisu possible sur cette sélection Skipper Massif. Faut avoir de l'expérience en Figaro. Donc, il n'y a pas de tranche d'âge, c'est une sélection ouverte à un skipper expérimenté pour avoir des résultats tout de suite en Figaro. Donc, j'ai la chance de remporter cette sélection qui est très complète, hein, à la fois sur l'eau, à la fois à terre, à la fois.
C'est pas qu'une régate.
Non.
Un grand oral.
Ouais, exactement. On a à la fois des épreuves sportives, des épreuves théoriques avec des épreuves de météo avec, on a un grand oral aussi devant de la direction du programme. On a des épreuves sur l'eau, effectivement, un grand côtier à faire. On a pas mal de choses, mais à la fois, c'est pas parce qu'on va gagner sur l'eau qu'on va être pris. C'est vraiment un ensemble. La structuration de notre vie aussi qui est prise en compte forcément. Et donc, j'ai la chance de gagner c'est un gros soulagement, j'ai la chance de gagner cette sélection Skipper Massif. Donc clairement, le jour où je gagne celle-là, je me dis, c'est presque, enfin, c'est pas la fin des galères, mais en tout cas, je sais que je suis serein pour 3 ans.
Dans ce discours, hein, tu racontes bien la pression financière qui existe ouais. sur ces projets-là, quoi. Hein.
Bah, on sait jamais de quoi est fait année N+1, N+2, N+3, voilà, parce que
quand tu dis que ta première saison avec 80 000 euros en Figaro,
je me payais pas, je me payais sur les primes de course, parce qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir des primes de course aussi. Il y avait des primes de course, il y avait c'est presque ce qui me permettait de, c'était ma condition pour être rémunéré sur le projet, quoi. Donc ça met un peu de pression pour avoir des résultats.
Non, mais du coup on voit bien à quel point l'enjeu économique il est pas du tout l'autre dans ces
Complètement ces projets, hein. complètement.
C'est pas du cash pour acheter que des voiles, quoi.
On se crée notre emploi, hein. On est les seuls maîtres de notre métier, quoi. Donc si on crée pas les conditions pour vivre de notre passion, personne va le faire pour nous. Part dans un cadre de sélection comme celui-là. Voilà. Et donc là, je passe vraiment d'un statut où je crée mon projet de A à Z en démarchant mes partenaires, en leur apportant un retour sur investissement, mais à la fois en gérant en parallèle un projet sportif complet, à un projet comme Skipper Massif où au final j'étais pilote d'un bateau, quoi. Donc clairement, j'allais être rémunéré pour piloter un bateau. Et tout le reste. Je le mettais en place, mais c'est pas moi qui le gérais au quotidien. Et donc ça, c'est clairement un atout. C'est inimaginable, quoi. C'est un vrai plus dans la carrière d'un sportif.
Tu vas rester 3 saisons, hein, chez Skipper.
Ouais, de toute façon, c'est 2+1.
Voilà, c'est ça.
Et donc, si ça se passe bien au bout de 2 ans, on est pris pour une 3e année. Et donc, je fais 3 ans en tant que skipper massif. Ouais.
Et donc, il y a une particularité dans cette sélection, c'est qu'il y a la cohabitation, la coopération ou la coopétition, comme le disent souvent, avec un autre skipper, donc ce sera Paul Mella au début, et ensuite Yon Richaume, qui sont des skippers de talent, hein, qui vont tous les deux être engagés sur le prochain Vendée Globe. Comment toi, tu vis cette cohabitation? Alors, dans le premier cas, t'es le bisu du team, même si t'as l'expérience. Et dans le second cas, t'accueilles un bisu qui est Yon Richaume. Comment tu gères cette vie à deux? À la fois comme une cohabitation et une compétition, quoi.
Enfin, c'est un vrai plus encore une fois du programme, c'est que on arrive avec déjà quelqu'un qui a déjà les manettes du programme. Donc dans la gestion courante du projet, la façon dont les relations avec le sponsor, il y avait une association Skipper Massif qui était gérée par quelqu'un qui était basé à Niort au siège de la Massif, qui du coup nous c'était notre relais au quotidien de ce programme Skipper Massif, mais à la fois, on faisait un budget en janvier à proposer au programme, qu'ensuite on dépensait le long de l'année, mais on restait prestataire de la Massif, avec notre société à nous à continuer à gérer. Et donc, on avait deux bateaux, on a deux bateaux à gérer au quotidien, un préparateur mutualisé pour les deux bateaux. Moi, j'arrive, Paul est déjà en place, il a déjà toutes les ficelles du projet, c'est super. Malgré tout, moi, j'arrive dans ce projet avec le numéro 1 dans la grand voile. Il n'y a pas de skipper 1 et skipper 2, quoi. Enfin, c'est vraiment, on est tous les deux avec la force de pouvoir travailler ensemble et de mutualiser pour être meilleurs tous les deux, quoi. Et donc, les courses en double, on les court ensemble. 2012, j'y arrive. Notre première régate, elle se passe sur la G2R ensemble avec Paul. Tout de suite, on travaille ensemble pour faire cet AG2R ensemble avec Paul. Et donc, quoi de mieux pour démarrer le projet que d'arriver et d'être tout de suite en double avec Paul, quoi. Bah, pour nous, c'est une vraie réussite en plus parce que 4 ans après, on se retrouve de tous les deux bisous en 2009 à galérer. Enfin, je veux pas dire galérer avec nos projets, mais avoir des débuts où t'es le petit poussé dans un programme où faut se créer son métier et son budget et on court souvent après l'argent. 4 ans après, on se retrouve confortablement installé dans une écurie Top Gun avec des moyens, quoi. Donc c'est une belle revanche, une belle consécration de nos efforts. Et on commence la G2R avec Paul ensemble et ça se joue sur le Tour de Lille pour faire un podium. On fait 4, mais 4 à 50 secondes de Bank Pop avec qui on fait un match race mémorable. C'était Jeanne et Gérald. Sur Bank Pop à la fin, et puis on fait un petit match race autour de Lille, et à la fin il y a une petite étoile sur les cartes dont on ne connaissait pas la profondeur. On a passé toute la transat à essayer de trouver la réponse, mais on l'a jamais trouvé sur les cartes papier, sur les cartes télé qu'on avait. Il y avait pas la sonde, mais il y avait une zone avec des étoiles à la dernière pointe avant la ligne d'arrivée. Et donc on ne connaissait pas la profondeur de cette étoile, et donc avec Paul à la fin, on arrive devant eux à cette petite pointe là, et ils sont 4 longueurs derrière nous, et il suffit juste d'affaler le spi et de finir au reaching vers l'arrivée. Et nous on fait le tour de l'étoile et eux ils affalent, ils coupent, et du coup ils nous doublent à ce moment-là. Du coup l'expérience, ils avaient déjà eu cette problématique là eux, Et bah nous avec Paul, petit bisou sur la G2R, on se fait bien avoir. Et donc à l'arrivée, on se fait prêter un jet ski, on va à la pointe et on a plongé en masque et tuba avec Paul pour aller voir où était le caillou. Maintenant je l'ai encore en tête.
Et maintenant tu sais que tu peux couper.
Ouais, exactement.
Pour les prochaines.
Ah, ça dépend le Girondeau. Figaro 3, on a plus de Tirono qu'à Figaro 2.
Ah ok, très bien. Donc, t'as fait ta sonde marée basse la plus.
C'est pas si simple.
Bon, donc du coup, il y aura une place de quatrième sur la G2R, il y aura encore une place de quatrième sur la solitaire, il y aura une place de troisième l'année après sur la Transat Bretagne-Martinique, il y aura une place de deuxième sur l'autre G2R avec Yann Richaume. Donc c'est vraiment.
En 2013, on gagne le Tour Bretagne avec Paul aussi. C'était une belle, malgré la difficulté qu'on a eue cette année-là. Parce qu'on a eu pas mal de, voilà, on a eu pas mal de difficultés. C'est pas ma meilleure solitaire. En 2013, je fais 10, je crois. Enfin, c'est pas.
12.
Je fais 12, tu vois, c'est encore pire.
C'est ce qui a marqué, non, en tout cas.
Mais je sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait eu des histoires. Enfin, on a été dans le dur avec Paul. Je crois que c'est une année où il casse son été, il finit en Angleterre. Enfin, c'est une année où on a eu du mal. Ça a été dur pour nous. Mais malgré tout, on termine la saison, on gagne le Tour de Bretagne, on met tout le monde hors temps sur le Tour de Bretagne, enfin, sur l'étape qui arrive à Brest. C'était juste assez, c'est une année où on termine très, très bien. On fait, je fais la Transat solo. Paul ne la fait pas cette année-là. Je suis le seul à faire la Transat solitaire. Je suis un podium, donc je démarre bien la saison, mais vraiment la solitaire qui était pour nous l'objectif saison, là, on passe à côté. Et donc il y avait de la frustration et donc fallait embrayer 2014 après un peu mieux.
Vous faites deux sur la G2R.
Oui, parce que du coup il y a transition fin 2013, transition
Johan qui arrive.
Sachant que 2013 pour moi c'est une année Figaro avec Massif, mais c'est une année où je fais toutes les courses classe 40 en parallèle avec Sebrog. 2013 c'est une énorme année pour moi.
C'est là où je voulais en venir.
6 courses de Figaro, 6 courses de classe 40 cette année-là.
C'est académiste. Et du coup, c'est ta première incursion dans ce monde des classes 40.
De course au large. Parce que après 7 Tours de France à la voile, parce que 2011-2012, je fais les Tours de France avec TPM. Voilà. On gagne en 2012 le Tour de France.
C'est ce que j'allais dire.
Mais 2013, c'est vraiment ma première, un projet plus gros bateau que le Figaro. Puisque finalement, j'avais déjà fait 2010, 2011, 2012 et 2013 en AG2R.
Voilà.
Ou en Transat Solo.
Donc là, c'est un bateau très différent, beaucoup plus gros. C'est un assez gros projet, le projet de Sebrog.
Ouais, le projet de Seb est top. Très gros sponsor. À ce moment-là, c'est Engie le partenaire. Enfin, GDF Suez, qui deviendra Engie après. Mais c'est gros projet, gros sponsor, construction de bateaux neufs en classe 40. Et il me choisit en tant que co-skipper. Donc, j'ai la chance de pouvoir naviguer sur un beau bateau, sur un beau projet, mais avec uniquement la contrainte d'aller naviguer. donc au final ça va, c'était pas pire. Et sachant que moi de toute façon je pouvais rien faire d'autre puisque j'étais déjà engagé avec Skipper Massif sur le projet Figaro, donc j'avais pas de temps à consacrer à la gestion d'un projet comme
donc c'est vraiment des années de stack analyst, mais c'est un peu ta marque de fabrique quand même pendant toutes ces années là.
Ouais, exactement.
Enchaînement, bouffer du mine.
C'est de faire du Figaro mon projet principal, mais c'est surtout d'aller prendre de l'expérience ailleurs sur plein d'autres bateaux. Donc j'en passe, mais je fais des Spi West France, je fais de l'équipage, je fais du Tour de France à Laval, donc j'en fais 7 de 2006 à 2012. En 2011, il y a Armel, faisant suite aux années avec Armel, avec la G2R en 2010, en 2011, il passe Banque Populaire, et là, je les accompagne un peu dans la préparation à la Jacques Vabre sur un nouvel IMOCA où il fait la Jacques Vabre avec Christopher Pratt. Et du coup, je fais un peu de perf avec eux à ce moment-là, tout en faisant du Figaro. Mais ça commence un peu, mes premières armes en polaire et en analyse de perf. Analyse de perf, c'était un bien grand mot, mais en perf, c'était avec Armel sur l'IMOCA en 2011.
D'accord. Une petite graine de
ouais, exactement. De déjà, je fais autre chose que naviguer. Sur cette année-là.
On y reviendra après, dans pas très très longtemps.
Mai 2013, ouais, effectivement, l'année Massif, Figaro, et l'année GDF Suez, où là, on fait beaucoup d'épreuves, dont un aller-retour aux Açores, Challenge Guyader.
On gagne tout, quasiment tout.
On gagne tout cette année-là. Il n'y a que la première épreuve du bateau, la NCR, que je ne fais pas avec Seb, parce que j'étais déjà engagé en Figaro. C'était pas compatible, mais sinon, on gagne toutes les courses qui suivent.
Et du coup, on en a parlé tout au début, mais toi qui es figariste et figariste de renom à ce moment-là, quand tu arrives dans ce monde de la classe 40, il y a quand même encore un petit décalage avec la manière dont vous naviguez. Et c'est pour ça que beaucoup de coureurs en classe 40, notamment au moment de la Jaguar, viennent vous chercher. Mais toi,
j'arrive sur un projet où
Seb,
il vient du mini, il a pas beaucoup d'expérience non plus du large et de ses bateaux. Voilà. Et puis moi, j'arrive avec la rigueur de la navigation au contact. Donc il y a à la fois le sens marin qui regroupe la perf quoi, Et donc, c'était super intéressant. Du coup, tous les deux, on était en prise de repère complet. Mais en prise de repère complet, mais sans frein, sans limite. Je me rappelle, on fait l'aller-retour aux Açores, on enlève la chaussette du spi, quoi. On fait tout, on fait l'aller-retour avec un spi sans chaussette, quoi. Ce qu'on ferait plus, enfin, ce qu'on ferait pas trop aujourd'hui avec des spis de 100 mètres carrés, quoi. Dans notre tête, il n'y a rien qui nous faisait peur. Ouais. Puis, bah, on a fait plein d'essais, en fait. On essayait vraiment de gagner les pouillèmes partout.
Ça, c'est
je me rappelle, dès qu'il faisait beau, on sortait tous les bouts sur le pont pour les faire sécher, quoi. Pour alléger le bateau. Enfin, ah ouais. C'était, enfin, voilà, il y avait, mais on essayait de se mettre aucune limite, quoi. Voilà. Et puis, mais ça marchait parce qu'on gagnait tout. Ouais. Donc c'était cool.
Et ça met une petite graine pour plus tard. Tu te dis là, tiens, le classe 40 potentiellement.
Ouais, le classe 40 c'était un circuit. Enfin et puis cette année Jacques Vabre, il y avait plein de monde. Moi je découvrais, c'était la première fois que j'allais faire la Jacques Vabre. Seb aussi je crois. Donc on arrivait vraiment en bisu de la Jacques Vabre. Et à la fois bah les années de, je crois que l'année d'avant, donc 2011, je faisais déjà du Figaro au pôle et donc j'étais allé traîner un peu à Port-Laf dans le cadre du pôle notamment. Donc j'étais allé sur les départs de la Jacques Vabre en me disant la fois d'après j'aimerais bien y être.
Ah oui. Et donc ouais. C'est quoi cette première expérience d'une très grosse course?
Eh ben, c'était top.
En Normandie.
Et en plus, elle était particulière. Normandie, départ du Havre. Et particulière parce que gros coup de vent, point de Bretagne et en gros, les gros bateaux peuvent passer, mais pas nous. Mais pas les classes 40. Donc, arrêt Roscoff. 36 heures d'arrêt Roscoff. En mode, on prend les temps à l'arrivée à Roscoff et on redémarre de Roscoff avec les décalages de temps de l'arrivée. Et donc, avec Seb, on part un peu, on part du Havre en se disant, faut tout donner jusqu'à Roscoff. Mais je crois qu'on l'apprend même, au départ ponton qu'on va s'arrêter à Roscoff et confirmer sur l'eau à la VHF. Donc en fait, ouais. On partait quand même dans un mode on va au bout pour l'instant. Et puis du coup, on est en config complète. Donc il y a un peu de logistique à gérer en même temps au départ ponton, machin, en se disant on va arriver là-bas mais il va falloir qu'on puisse dormir, qu'on se loge, machin. Donc on passe quelques coups de fil vite fait pour régler ça. Mais on se dit maintenant, c'est Roscoff ou rien. Donc il y a un front à passer et puis on va arriver à Roscoff quoi. Enfin, Barfleur, Blanchard et le front et ensuite on arrive là-bas. Et ça bataillait fort sur l'eau, c'était chouette. Il y avait je saurais plus te dire tous les marins qu'il y avait, mais il y avait du monde sur l'eau. Hein. Il y avait Jorg et Seb Odigan, je crois, qui jouaient avec le même bateau que nous, qui était assez redoutable avec Maré à l'époque. Ouais. Maré. Ouais, il y avait Alex Peya avec Pablo Santurde, déjà, qui marchait bien avec leur bateau, avec un bottine aussi, avec Thalès. Mm-hmm. Il y avait Johan et Damien qui tournaient bien. Il y avait Yannick. Il y avait plein de monde, quoi. C'était... Ah, j'en oublie, je vais en vexer. Enfin, peut-être en c'est d'autres, mais. Non, mais enfin, il y avait plein de monde, donc c'était une belle bagarre. Et puis à la fois, nous, encore une fois, je sais pas, la vista, la confiance, la. On n'avait pas de frein, et donc on arrive à Roscoff, on gagne déjà. On passe le front mieux que les autres. On n'est pas en tête à Barfleur, on n'est pas en tête à Blanchard, mais on est les premiers à virer à Aurigny, à faire de l'ouest et à passer de l'autre côté du front, et là, à déboîter jusqu'à Roscoff, le bateau, je pense que c'est la première fois qu'on allait aussi vite avec ce bateau derrière le front mer plate. Ça allait super vite, quoi. Enfin, le bateau, il planait et on découvrait un peu ce bateau aussi. Et on arrive à Roscoff avec un peu d'avance sur derrière. Donc, ce qui nous permet de repartir de Roscoff, à 4h du matin, alors qu'il y a encore 35 nœuds dehors, on repart de Roscoff en tête, quoi. Donc, déjà, on repart avec de l'avantage. Et situation encore une fois un peu de chance, mais situation météorologique assez assez classique, mais exceptionnelle pour nous, c'est qu'on repart de Roscoff, il y a 35 nœuds, il y a de la mer, ça c'est pas du tout confortable. Je me rappelle le départ, c'était une bouée mouillée au large de l'embarcadère du ferry, et puis le comité de course, c'était Sylvie Vian à l'époque dans sa voiture avec les phares de la voiture allumés pour éclairer la bouée.
C'est vrai.
Et donc nous on faisait des allers-retours au moteur avec deux riz dans la grand voile, et puis au moment du top on abattait, on éteignait le moteur, on passait la ligne quoi, mais on s'abritait parce qu'il y avait vraiment cartouche quoi. Et donc chacun notre tour, on faisait nos petits allers, notre face au vent, avant arrière, avec deux riz, le temps que ce soit notre tour pour couper la ligne quoi. Et donc on part, on vire au large de bas, et puis on plein gadin, plein ouest, avec du nord-ouest là, dans 30-35 nœuds, et là on plante des pieux et on perd les deux aériens tout de suite.
Ah oui.
Donc là direct on perd le vent, on passe, on arrive pile poil à la renverse, légèrement trop tôt par rapport à la renverse à Ouessant, dans le front beurre. Du coup, nous, on passe, encore une fois, peur de rien, mais on passe dans les cailloux à Molène et tout, Reaching Jenac. Moi, je suis à l'intérieur en train de téléguider Seb avec l'ordinateur en mode figariste. S'il fait nuit, on n'a pas peur, on voit pas les cailloux. Donc je le guide avec le, lui, il sait pas où il est. Mais, et après, je lui montre la trace et c'est vrai que c'était, après coup, ouais, c'était joueur, mais c'est sympa à regarder. Et donc on passe là-dedans, nous juste avant la renverse, donc fallait, on pouvait pas passer le front verse, encore le courant en contre, mais dans ces petits passages-là, ça passait. Et donc après on dégolfe dans le golf, et puis situation un peu classique, il y a une dorsale qui se couche et qui va fermer un peu qui va fermer la porte au Cap Finistère, donc faut aller très très vite là-bas. Et donc tous les routages que je fais, ils voient qu'on est un peu tendu pour passer, mais que pour nous ça peut le faire, mais pas derrière. Et donc, on se dit là, faut cravacher. Et donc là, on avait un vrai coup à jouer, mais on avait quand même notre problème de, on n'avait plus d'aérien et que la 30 mètres était très longue parce qu'on allait à Itajaï. Donc c'était la plus longue Jacques Vabre qui existait puisqu'on avait 5 500 milles ou je sais plus. Enfin, c'était méga long quoi. Et donc on se dit est-ce qu'on a une possibilité de réparer sans mettre en cause nos chances de performer. Et donc du coup, je cherche un point de passage au sud de la dorsale. En me disant de toute façon il est hors de question de s'arrêter avant, on va passer la dorsale et puis on verra après. Et donc la dorsale elle se couche sur le Cap Finistère, nous on avait un sud Cap Finistère, je cherche un petit port, un truc où on peut s'arrêter et repartir vite. Et donc je trouve un petit port, c'était Mouchia je crois, enfin je sais plus, mais le port parfait quoi, je vois un ponton dans ce truc avec du tirant d'eau qui va bien. Et donc tout de suite on appelle notre préparateur. Et on lui dit, il n'y avait pas de temps minimum d'escale, il n'y avait pas tout ça. On appelle notre préparateur, on lui dit, passe chez NKE, récupère deux aériens, et puis saute dans le camion et rejoins-nous, quoi. Fou comme nous, quoi. Et donc,
j'avais oublié cette anecdote.
Et donc, il part en camion pendant que nous on dégolfe. Il part en camion, il nous rejoint, il nous attend là-bas. Et donc on arrive, on passe la dorsale, tout juste. On prend les fichiers météo et tout, on se régale un peu devant le PC en voyant ça. Et puis on se dit, là, on a clairement le temps de s'arrêter. Et puis, c'est bon, on repartira en tête, quoi. Et donc, on s'arrête à ce petit port-là. On arrive au ponton en pleine nuit. On a notre préparateur qui, avec le baudrier, la rallonge, tout déjà branché. Il nous attend avec le fer chaud, les gaines thermaux, les aériens dans la main. Et on s'est arrêté 45 minutes.
Ah ouais.
On fait un stop au ponton. Il est monté. Il a changé les deux aériens. Moi, je faisais des routages pendant ce temps-là dans le bateau. On est reparti dans la foulée. On replombe le moteur à la sortie. On repart. Et là, c'était le pointage de la nuit. Donc, il n'y avait pas de classement pendant la nuit, entre minuit et 5 heures du mat, je crois. Et entre minuit et 5 heures du mat, on s'était arrêté. Du coup, on était reparti. Et au pointage de 5 heures, on avait repris du temps. Enfin, on avait regagné sur sur ceux de derrière, malgré notre arrêt au stand. Parce qu'on était passé sous la dorsale et que du coup, on était invincible, quoi. Ouais. Ils étaient tous bloqués. À la Corogne, quoi. Donc après on est reparti et puis après on casse le bout dehors dans 35 nœuds justement sous la dorsale parce que le vent il accélère fort après derrière avec le nord-est et donc on se retrouve du coup à casser le bout dehors mais on en avait un deuxième à bord donc on le répare incroyable cette transat,
une aventure,
puis on finit par casser tous nos spies. Et puis du coup, dans le poteau noir, et pendant 2 jours, on se retrouve à sacrifier 2 spi pour en faire un seul.
Ah ouais.
Et puis finalement, on a 1 spi, mais ouais. Je me rappelle, Seb, il avait son étui à carte bleue. Il prenait ses cartes bleues pour étaler le Sika dans le bateau sur le bloc moteur qui était le seul endroit plat pour réparer. Donc on a fait du mètre linéaire de Sika pour on avait taillé notre médium pour refaire notre grand spi quoi. Donc on prenait des bandes de médium qu'on recollait au Sika ou aux bandes de cartouches de colle qu'on avait dans le bateau quoi. Mais on a remis un spi qui nous a permis au sud de Fernando quand la Lisée réadonne et donc avant Rio de remettre un spi et de finir jusqu'à l'arrivée avec un spi et donc de contrôler notre première place quoi, parce qu'on arrive là-bas puis on sort du poteau noir, on arrive devant le Brésil, on a plus de 100 000 d'avance sur le deuxième. Enfin, on avait vraiment une grosse avance grâce à la dorsale et à notre arrêt du coup qui nous a permis d'être dans le match quoi. Du début à la fin, parce que Roscoff nous a permis d'être en tête et ensuite c'était gagné.
Bon, ça
quoi.
C'était une séquence au milieu de la séquence Figaro, parce que comme on disait que tu naviguais beaucoup. Donc il y a l'année 2014 aussi avec la G2R avec Yann Richaud, mais donc ça c'est la 2014, c'est la fin de la séquence massif.
Ouais.
Et la fin de la.
C'est ma troisième année massif.
C'est ça.
Je renouvelle une troisième année.
Voilà, exactement. Et donc c'est vraiment la fin du gros bloc.
Ouais.
Figaro. Et là tu vas passer dans la division supérieure. Jusque là c'est assez linéaire en fait.
À 2014 Figaro, c'est ma dernière année de Figaro avec massif. où bah il y a quelque part un peu de, je me dis que ça va être ma dernière année de Figaro de toute façon, parce que j'y consacre tellement de temps, tellement d'énergie, que progressivement entre ma première année et ma dernière année, quand t'arrives la fin de la saison, tu veux plus le voir ni en poster ni en photo le bateau. Tu veux juste le mettre en, tu veux juste aller retrouver de l'envie en faisant ailleurs, en faisant, en breakant, mais sans le voir quoi. C'est vrai que fin 2013, fin 2012, fin 2013, et puis en fait c'est des fins de saison Figaro où tu mets ton bateau en chantier et bah tu satures du Figaro parce que t'en as tellement mangé toute la saison que tu veux juste retrouver de l'envie en faisant autre chose, ouais. Et donc ce projet Jacques Vabre, moi, entre les courses Figaro en 2013, c'était clairement ce qui me permettait de reprendre l'envie de revenir en Figaro avec encore plus la niaque, quoi. Et donc ça, je l'ai toujours fait, d'aller faire autre chose entre mes courses de Figaro, parce que sinon on est enfermé dans une bulle où on sature, quoi. Et donc 2014, c'est l'année où je veux avoir des résultats, clairement, parce que c'est une trop grosse opportunité massive pour la gâcher. Et donc 2014, on commence la G2R avec Johan. Par la G2R avec Johan, donc là c'est top, on fait deux, on se bat contre Paul et Guéno justement, et ça se joue à un petit décalage, enfin on n'était pas les plus rapides sur l'eau et clairement ils avaient un petit avantage sur nous,
donc c'est Paul Mella et Guéno et Gainé, hein.
Exactement, Paul qui du coup laissait sa place chez Massif à Johan, et donc on se retrouve à faire un et deux sur cette AG2R par une situation météo avec un décalage dans le sud après les Canaries, et du coup on est les deux bateaux à le faire, eux le font un tout petit peu plus que nous et prennent l'avantage. Et puis derrière, c'est du Figaro, donc ça peut se contrôler jusqu'à l'arrivée, quoi. Si t'es dans un Alizé un peu stable, c'est pas en vitesse que ça se joue, quoi. Donc ils gagnent, nous on fait deux avec Yo, super début de saison. Et puis ensuite, on enquille sur Generali Solo où je dois faire un podium, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Ah non, je sais plus. Mais voilà, du coup, si je dois faire un podium, je crois, je dois faire deux sur cette Generali ou trois, un truc comme ça. Et puis ensuite, la solitaire 2014, et cette solitaire, c'est l'année où, pour moi, où je me sens en confiance, où je me sens bien, c'est l'année où j'ai toutes mes chances. De nouveau, c'est un sentiment que j'avais pas retrouvé depuis 2011, en tout cas, que j'avais perdu après en 2012-2013. Même si en 2012, je fais troisième ou quatrième sur la solitaire.
Ouais.
Mais voilà, j'avais pas la confiance comme je pouvais l'avoir avec mon bateau en 2011 et comme je pouvais l'avoir avec mon voilà. Et donc 2014, je retrouve ça et je me retrouve bien en confiance là. Et puis je commence la solitaire. Je dois faire deux sur la première étape en Angleterre. Je dois faire quatre sur la deuxième étape. Je me retrouve en tête au général à Roscoff à mi-course. Et puis redépart de Roscoff en stand-by avant le départ. Il y a 20 nœuds de vent sur zone et je pète mon D1 juste au moteur GV. Je venais de plomber mon moteur, je suis sous GV seul pour rejoindre la ligne de départ et mon D1 qui explose, quoi. Donc c'est une année où on mettait quand même pas mal on mettait de la tension dans les mains, hein. On avait trouvé ce qu'allait vite aussi. Mais voilà, c'était un peu la faiblesse, les câbles qui commençaient à casser. Et donc mon D1 pète et là, tous mes espoirs sont ruinés pour la solitaire parce que je dois revenir au port après le départ de cette troisième étape, donc je perds plus de 2 heures, je pouvais pas repartir 2 heures avant le départ de l'étape officielle, donc je viens au ponton, mon D1 il est remplacé en 3/4 d'heure, et j'attends, je ronge mon frein sur le ponton en attendant de pouvoir repartir pour de vrai sur cette étape, et puis au final je repars de l'étape, je suis déjà en décalage sur le passage du Four et du Ratzin, où ils passent tous avec le courant avec, moi je repars derrière et je me prends la renverse, ils passent avec du vent, moi je passe sans vent. Je me retrouve à Belle-Île avec plus de 90 000 de retard sur l'avant-dernier. Et donc, je fais route Sable d'Olonne. L'étape, elle est terminée pour moi à ce moment-là. Je suis au mouillage à Belle-Île, il n'y a plus de vent et je sais que ça ne va pas rentrer. Et donc, j'abandonne sur cette étape-là. Ne serait-ce que pour bien préparer la quatrième étape, ventre, puisque de toute façon, en fait, il y a juste une règle sportive qui dit que quand on abandonne, on prend 4 heures de plus que le temps du dernier classé. Et donc celui qui n'est pas classé à l'étape, en tout cas, il prend 4 heures de plus que celui qui est classé. Donc là, j'allais prendre 12 heures de plus que le classé. Ouais. Enfin, bon, en gros, ça ne servait plus à rien d'être sur l'eau. Et donc cette étape-là, je vais au Sable d'Olonne au convoyage. Et puis ma solitaire, elle est finie, quoi. Donc je fais une dernière étape sans conviction, sans envie, mais juste pour terminer, où je dois faire 7e, je crois, sur cette étape-là. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, la solitaire était finie. Donc 2014, mon plus grand regret, parce que c'est vraiment l'année où je pouvais la gagner, cette solitaire, mais voilà.
T'avais ce sentiment-là?
Parce que c'est pareil, j'étais vraiment dans le même esprit de 2011 où là, pour le coup, alors première étape, malgré tout, malheureusement, il y a Yann qui démate à Wolfrock. je crois. Non, sur la deuxième étape, il y a Yann qui dématte à Wolfrock. Moi, je perds mon D1 l'année d'avant, l'étape d'après. Je me retrouve en tête à Roscoff. Il n'y a plus Yann qui domine tout assez outrageusement. Donc, on perd malgré tout, et malheureusement un concurrent redoutable, mais ça ouvre une porte immense pour le général. Il y a Charlie, il y a Jerem, mais cette année-là, ils me font pas peur. Et voilà. Et donc, j'ai vu que, à la régulière, étape 1, étape 2, j'étais devant eux. Et donc, voilà. C'est vraiment l'année où j'avais toute ma, enfin, sans ce D1, je pense que c'est l'année où je pouvais la gagner, cette solitaire. Mais voilà. Après, fin de projet massif. Donc, saturation complète du Figaro. Et donc, on passe à autre chose.
Alors là, tu vas faire tes grands débuts dans le monde de l'IMOCA avec Jean-Pierre Dick. Comment ça se passe? Tu viens de chercher, tu candidates. Comment ça fonctionne dans ces cas-là?
Bah en fait, c'est encore une fois, tu vas me dire que c'est tout planifié, c'est tout calé, mais mais en fait, fin de projet massif, il faut assurer une suite clairement. Ouais.
L'avantage, c'est un gros enjeu. Hein, pour
c'est un gros enjeu parce que.
Genre c'est classique pour tous.
Parce que si on l'envisage pas, on se retrouve vite. Mince, ça s'arrête. Que j'ai pas prévu quoi. Mm-hmm. Et donc cette année 2014, j'essaye avec Jean-Bernard Leboucher de la Massif d'essayer de monter un projet Figaro, de IMOCA pardon, parce que il y a un bon modèle chez Massif pendant mes années aussi à la Massif, c'était François qui gagne en 2012 le Vendée, dans lequel je suis intégré aussi. Enfin, on est impliqué en tant que skipper Massif dans ce village départ de Vendée Globe en 2012, de faire vivre le Vendée pendant. Le Vendée Globe à Niort, au siège de la Massif, où nous on intervenait régulièrement avec Paul sur des midis, des midis Massif Vendée Globe. On allait dans un amphi où les gens passaient, s'arrêtaient, on discutait avec eux, on leur faisait partager un peu le truc. Donc on était déjà un petit peu baignés. Et à la fois, au sein de la Massif, ce projet il existait déjà quoi. Donc on allait naviguer un petit peu en IMOCA avec François aussi. Il y avait un partage entre les projets. Et ça nous donnait envie. Donc en 2014, j'ai essayé de monter, mais j'ai pas réussi avec Jean-Bernard. Et donc j'habitais encore à Caen à ce moment-là avec une coloc à Port-Laf toujours. Mais c'était quand même dangereux et compliqué ces allers-retours, trois jours par-ci, trois jours, enfin quatre jours par-là, et les allers-retours, fin d'entraînement, reprendre la voiture pour faire quatre heures de route. Enfin, c'était pas sérieux. Et puis j'étais en couple aussi à Caen. C'était pas une vie très facile non plus d'être toujours parti et tout ça. Et donc, il se trouvait que c'était un peu le moment charnière pour nous, je vais dire familièrement parlant, de potentiellement changer de d'endroit de résidence. Et donc, on a décidé de venir s'installer à Lorient, où c'était plus facile, sans avoir son projet à soi, de pouvoir travailler pour les autres. Parce que moi aussi, c'était quelque chose d'envisager, de se dire, je sature du Figaro, donc si je fais pas du Figaro, j'ai pas mon projet à moi. Si j'ai pas mon projet à moi, il faut que je puisse travailler quand même. Et donc, Lorient, c'était un endroit parfait parce qu'à mi-chemin entre la Trinité et Port-la-Forêt, c'était là où il y avait l'activité. Donc, c'était pas forcément le Lorient d'aujourd'hui. Les projets étaient beaucoup plus répartis entre Port-la-Forêt et la Trinité. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est ici à Lorient. Mais voilà, le choix d'être à Lorient, c'était assez central. Pour ma femme qui est avocate, c'était aussi beaucoup plus facile de postuler et de travailler. Et donc, c'était parfait. Fin 2014. On décide de venir s'installer à Lorient. Et donc, moi, dans mon discours de recherche de suite, c'était aussi beaucoup plus facile d'envisager, de démarcher ou de postuler en disant j'habite à Lorient, quoi. Mm-hmm. Et donc, on arrive en septembre à Lorient. Et courant décembre, je rencontre Jean-Pierre Dick, comme ça, tout à fait par hasard, au salon nautique et dans le métro à Paris. Enfin, mais vraiment comme ça. Et puis, une discussion d'entraîne une autre. Comment ça va, toi? Tu construis ton bateau neuf pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais rien. Et donc, tiens, on se revoit à Lorient. Et puis, on s'est revu à Lorient. Et puis, au final, j'ai postulé, mais sans vraiment le provoquer, puisque je savais... c'était vraiment que de la discussion informelle, et puis je me retrouve finalement formellement dans un bureau avec Jean-Pierre et son équipe, à se dire, qu'est-ce que je peux apporter et dans quel cas je peux m'inscrire. Moi, j'étais 100% disponible, et donc, j'ai postulé à 100% dans son équipe avec son équipe Absolute Dreamer, avec ce projet Saint-Michel-Virbac, la construction d'un IMOCA neuf.
À foil,
les premiers foilers, finalement deux ans de projet, puisque Jean-Pierre allait faire le Vendée Globe, moi j'allais faire la Jacques Vabre avec Jean-Pierre, mais avant ça, fallait construire le bateau. Et donc, je me suis retrouvé jusqu'en finale où on était deux. Enfin, on était encore deux sur le projet. Et puis, je me retrouve du coup pris dans cette belle aventure avec Jean-Pierre et son équipe pour intégrer ce monde de l'IMOCA que je connaissais très peu finalement. J'avais fait un Grand Prix Guyader avec Mich une journée. J'avais fait un peu d'IMOCA en 2011 avec Armel. Voilà, j'avais fait un peu d'IMOCA avec Massif, avec François, mais c'était que des petites briques par-ci par-là, des petites naves complètement hors contexte de compétition, quoi.
Puis là, c'est un changement à tout point de vue. Enfin, je veux dire, t'as plus ton projet à toi, tu travailles au service de quelqu'un.
Exactement.
Il y a plus de travail à terre aussi.
Ouais. Je suis vraiment dans un travail, on va dire classique, quoi. Je suis embauché dans une équipe qui tourne déjà, qui existe déjà, en tant que, à la fois, je fais du bateau et à la fois, j'ai des missions à terre de performance ou d'analyse de performance et de coaching avec Jean-Pierre. Donc voilà, je suis impliqué dans le sportif pur, mais à la fois avec une vision de navigant sur le bateau. Et puis, préparer un événement 2 ans plus tard, pas pour moi, mais en tout cas avec Jean-Pierre, qui est le Vendée Globe, quoi. Donc on rentre dans une machine infernale et c'est incroyable.
Et ça te plaît justement ce nouveau statut ?
Ouais, ça me plaît. Ouais, ça me plaît et à la fois ça me plaît et à la fois ça me plaît parce que. Mais c'est, on est complètement sadique en tant que marin. C'est que, il y a un moment, enfin, quand on en fait trop pour nous, on se dit, je sature, j'ai envie de, finalement, d'aller vers de la facilité et de pas avoir toutes ces tâches à gérer et donc travailler pour quelqu'un, c'est confort. Et puis, à la fois, on se dit, mince, ça me manque quand même à la fraie.
Très rapidement.
Enfin, très rapidement, ouais. Tu te dis, ça me manque de naviguer pour moi, en fait. Et donc, cette année, Jacques Vabre, c'est une année où on a notre premier enfant aussi, en 2015, où, donc à la fois c'est très confortable, à la fois c'est très motivant, très impliquant, très
et un peu frustrant.
Mais en fait, elle arrive pas là, la frustration, elle arrive plutôt en 2016. 2015, c'est vraiment une année où il y a la naissance de notre enfant, c'est plein de nouveautés familialement parlant. À la fois je suis sur un projet super, on construit un bateau neuf, donc construire un bateau, faire des allers-retours chez Multiplace, gérer tous les compartiments de ce bateau avec Jean-Pierre dans une équipe qui connaît bien la pellicule parce que c'était son 4e Vendée à Jean-Pierre. Mm-hmm. Enfin, c'est juste pour moi les conditions parfaites, quoi. Et en plus, on fait la Jacques Vabre à la fin. Donc, non, c'est une année qui est super. Et puis, cette Jacques Vabre avec un bateau tout neuf, on court un peu après le temps. Le bateau est première génération de foiler, on casse, on s'arrête à Madère, un peu de frustration. On revoit nos plans, on s'entraîne différemment l'hiver en partant à Cache-Caille faire un camp d'entraînement. Enfin, on repense les choses différemment. Par contre, 2016, voilà, une année différente puisque 2016, c'est que des courses en solitaire. Donc moi, je fais que les entraînements avec Jean-Pierre, mais j'ai pas de temps pour naviguer pour moi. Si ce n'est, on fait de l'Open 750 pour occuper notre hiver. On fait le Speed West avec Jean-Pierre et une équipe aussi, mais.
Et voilà. Une petite Québec-Saint-Malo.
J'ai une Québec-Saint-Malo pendant l'été. J'arrive à faire quelques piges à droite à gauche sur des projets qui sont des super expériences. Moi, cette Québec-Saint-Malo, ça restera aussi pareil, un souvenir gravé. Mais malgré tout, j'ai pas de projet sportif à moi. Ouais. En tout cas, j'ai pas de fil conducteur. Ce fil conducteur, il est travaillé pour quelqu'un. Mm-hmm. Mais je me dis, est-ce que réellement, j'ai vraiment l'envie de relancer un projet à moi, clairement, parce que je me dis, c'est quand même dommage, c'est des années qu'il faut pas que je perde, quoi. J'aurai le temps plus tard de travailler pour les autres. Mais en tout cas, là, c'est des années où je peux encore avoir mon propre projet et faire des choses avec moi, pour moi. En tout cas, sportivement, je veux pas délaisser la partie sportive tout de suite, quoi. Donc là, 2016, j'en arrivais plus à un projet terre qu'à un projet mer. Et donc, mais qui était, encore une fois, je les remercierai toujours parce que c'est un projet pendant 2 ans qui m'ont fait comprendre les rouages d'un gros projet, qui m'ont fait découvrir de l'IMOCA. Enfin, c'était top, qui m'ont permis aussi d'apprendre une nouvelle casquette qui est celle de l'analyse de performance et de la performance en travaillant avec des prestataires. Tu travailles avec tous les prestataires du milieu de la course au large dans des projets Top Gun. Et donc ça, c'était... Voilà, quand toi t'arrives juste avec ton sac à dos, c'est quand même c'est un partage énorme, quoi. Donc c'est une grosse opportunité, une grosse chance. Mais le sportif s'éloigne un peu.
Et alors tu vas le retrouver comment? Parce que derrière il y a un autre projet qui...
Bah alors ouais, mais je vais le retrouver comment? Encore une fois, c'est une part de, c'est, je sais pas si c'est du hasard, si c'est le fait de structurer mon avancée comme ça, mais. Je me retrouve au Noël du Père Noël sur la plage à l'Omneur ici à côté de Lorient au mois de décembre et mon téléphone sonne et c'est Charles Claude Relier qui m'appelle et qui me dit bah on part à Sydney faire la Cinobart, mais on a Pascal qui devait être notre navigateur qui peut plus, est-ce que tu es dispo pour venir? Et puis il y a Tom Rooks qui m'appelle aussi, qui était aussi sur le projet Dongfeng.
Thomas Rouxel,
ouais, qui me dit aussi, qui m'appelle et qui me dit, enfin pareil, pour parler de ce projet-là. Je fais bon, là enfin, je
explique à madame. Que
mais
je vais pas
la seule contrainte, c'est que dans deux jours, il faut être parti, faut être dans un avion dans deux jours. On gère ton visa, mais dans deux jours, tu dois être dans un avion pour nous rejoindre à Sydney. Bon.
Alors,
bah là,
laissez-moi expliquer à madame.
Va falloir, donc, bah, ça tombe bien. On est déjà, on est ensemble sur la plage, en train d'assister à l'arrivée du Père Noël. Et l'opportunité est trop belle, quoi. On sait jamais dire non, de toute façon. Mais l'opportunité est trop belle. Donc, bah, je dis, bah, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je te rappelle dans 10 minutes. Et puis, voilà. Puis, 10 minutes après, j'avais dit oui. Donc, ça s'organisait un petit peu différemment. Je partais à Sydney passer Noël, quoi.
Bon, et là, c'est donc la tête d'un projet Dongfeng, en fait.
Ouais, exactement. En fait, c'est un projet Dongfeng. On n'est pas avec le Volvo, mais on est avec un propriétaire fortuné chinois qui du coup s'adjoint les services de Dongfeng pour faire un 6-6 sur un bateau où on est 12 pour aller faire la Sydney Hobart qui est lui son rêve. Il a plusieurs bateaux, plusieurs gros bateaux, pas forcément de course en Chine, mais il dit bah moi, enfin voilà, il voulait faire la Sydney Hobart et donc ils ont confier la responsabilité à Dongfeng de trouver un bateau et de monter un équipage pour faire la Sydney Hobart. Et donc, avec la condition qu'il ait une partie de son équipage à bord. Donc, il y avait 6 Chinois qui parlaient ni anglais que chinois. Enfin, qui peuvent. C'était assez incroyable. Mais il y avait 6 Chinois de son équipage qui étaient là à bord. Sur ce projet, voilà, il y avait 6 Dongfeng, dont bah, Charles, Thomas Rouxel, il y avait Marie Rioux aussi, qu'on était les 3 Français. Il y avait Jack Boutel aussi. Et puis, 2 Chinois du projet Dongfeng. Et je me retrouve du coup bah aller là-bas pour prendre la nave pour être navigateur sur la Sydney Hobart. Et donc bah super première voilà, j'apprends à connaître Charles, Thomas, l'équipe voilà, je fais les choses comme moi je j'ai l'habitude de les faire en tant que navigateur, de préparer voilà, de préparer la nave, de faire mon truc et puis bah ça plaît bien à Charles, à l'équipage, on gagne. Ça se passe très bien sur l'eau, on gagne dans notre catégorie et tout, enfin et voilà, donc ça se passe très très bien. On décerne le trophée du meilleur navigateur, machin. Enfin, on a plein de trucs. Donc les Chinois, ils sont tous le propriétaire. Il était même pas à bord pour la course, mais il nous attend en Tasmanie. On arrive au ponton, il a la larme à l'œil. Enfin, c'est juste assez incroyable cette histoire. Et puis bah très rapidement avec Charles en arrivant en Tasmanie, on passe un peu de temps ensemble à discuter de si voilà si ça m'intéressait d'avoir une suite avec eux. Malgré tout, son équipage sportif était déjà défini. Mmh. Il voulait fixer à 12 son équipage. Donc, il y avait déjà les 12 navigants qui étaient déterminés sur ce projet, mais il voulait que je prenne la partie analyse de perf. Donc j'avais un poste de responsable perf à prendre sur le projet Dongfeng, mais aussi de navigant remplaçant et de navigateur remplaçant de Pascal. Donc moi je dis banco tout de suite et donc on se retrouve très rapidement à la mise à l'eau du bateau. C'était parti comme ça quoi.
Mais du coup tu disais que tu étais frustré du peu de navigation que tu avais sur l'année 2016. Là tu sais qu'il va pas y en avoir beaucoup.
Ouais mais bon, c'est la proposition est trop belle quoi. Voilà. C'est une course que pour le coup je regarde depuis des années, son histoire, la dimension technologique, la difficulté. Moi j'ai Enfin, ce projet Dongfeng, il était basé essentiellement à Lorient, mais un projet franco-chinois. Moi, jamais j'aurais osé envoyer un CV. Enfin, j'ai jamais envoyé un. De toute façon, à Dongfeng ou ailleurs, mais j'ai jamais envoyé un CV à qui que ce soit. Je sais pas. Je suis pas dans cette démarche de pousser. Je suis plus dans cette démarche de les choses arrivent quoi. Et voilà. Et donc. Si on regarde, j'ai pas le gabarit d'un équipier de Volvo non plus, donc jamais j'aurais eu la prétention de dire je veux faire du Volvo. Laissez-moi tourner les manivelles quoi. Enfin, j'ai pas le gabarit quoi. Donc voilà, du coup c'est pour ça. Enfin, les choses se sont faites encore une fois par pur hasard, mais une chose en entraînant une autre. Ils ont pensé à moi pour ce poste de nav sur la Sydney Hobart. Puis j'intègre le truc et puis là je me dis effectivement il y a un gros job, mais aussi à la fois c'est une deuxième casquette que je maîtrise moins, mais que j'ai commencé à maîtriser. Avec Jean-Pierre et à la fois je vais travailler avec des personnes qui vont me faire progresser énorme dans ce domaine-là, même si j'en prends la responsabilité de la perf, Rapidement, je me retrouve en binôme, du coup, avec Cyril Douillet de Selling Performance, qui, du coup, a développé toute la suite d'outils d'analyse de perf qu'on utilise tous aujourd'hui, quoi.
Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer brièvement ce que c'est que l'analyse de performance? Parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises.
Ouais.
Mais raconte-nous exactement. Donc, c'est analyser en gros les données de performance du bateau.
Ouais, pour faire très simple, on enregistre tout sur le bateau. Donc, tout est enregistré en termes de navigation et de centrale.
Enfin, 12, c'est toutes les données du bateau.
Toutes les données du bateau.
Le cap, l'anémo, l'angle de vent, enfin, tout
ouais,
est.
Ouais, exactement. Les capteurs de charge. Il y a plein de choses dans les bateaux qui, à partir du moment où on peut avoir une valeur et qu'un petit capteur pour l'enregistrer, on les log, donc on a des gros fichiers à la fin de chaque navigation qui nous permettent du coup d'avoir toutes les données enregistrées pendant la navigation, et puis après il faut trader ces chiffres et ensuite en ressortir un mode d'emploi du bateau, quoi. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire le lien terre-mer entre de l'analyse de chiffres bruts comme peuvent le faire des mathématiciens, des ingénieurs ou tout ça, mais qui n'ont pas ce côté navigant, et le côté sensation du navigant. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir une interface entre le navigant et la data brute, quoi. Et donc, moi, c'était un peu mon rôle, c'est-à-dire que sur ce projet Dongfeng, finalement, toutes les naves hors course, j'étais à bord du bateau. Et à la fois, je travaillais avec Cyril qui, lui, naviguait pas ou très peu. Et du coup, moi, je faisais vraiment ce lien à chaque sortie de navigation avec Cyril pour analyser les traces et en ressortir de l'utile pour le côté plus pragmatique navigant, quoi. Parce que les chiffres, finalement, on peut leur faire dire ce qu'on veut, quoi. Hein, à partir du moment où
Tu traduis les chiffres presque en consigne pour l'équipage, quoi.
Ouais, exactement. Et puis par rapport aux sensations, par rapport à ce qui s'est passé sur l'eau, il peut y avoir des très bons chiffres, mais qui sont liés uniquement à des conditions très favorables sur l'eau. Et à la fois, si on n'a pas ce lien avec la mer, on peut se dire que c'est ça qui marche. Alors qu'en fait, ça marchait qu'une fois, mais ça marchera jamais.
Ça marche pas quand il y a.
Et donc. Voilà, il y a des conditions de vent qui sont plus instables que d'autres ou qui vont nous faire avoir des chiffres remarquables, très intéressants. Mais en fait, on sait très bien que ça va direct à la poubelle. Et donc, voilà, l'objectif, c'était de mettre aussi en place les contenus de nav, d'aller sur l'eau en sachant exactement ce qu'on allait travailler. Donc moi, c'était aussi mon rôle au sein de Dongfeng, c'était de savoir pourquoi on sortait et ce qu'on allait faire sur l'eau, pour justement aller chercher les chiffres qu'on allait ensuite exploiter pour ressortir des résultats, quoi. Donc tout le projet, il était autour de cette perf, donc de contenu, de nav et ensuite d'analyse et de débriefing et de mode d'emploi du bateau, parce que finalement on était sur encore un bateau monotype.
Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit.
Et donc le côté monotype, en tant que on avait beaucoup de figaristes à bord, mais à la fois quand t'as 10 figaristes sur un bateau, il faut que ça marche ensemble. et c'est ça qui est compliqué, mais tout le monde c'était juste incroyable. Il y avait aussi des ressources étrangères, il y avait des néo-z à bord, il y avait des voilà, et ça a été super intéressant du coup pour finalement comprendre un bateau, mais on a tous le même, et donc la différence sur l'eau, elle se joue sur les détails, et donc tout le monde s'est structuré comme ça.
Et pour prendre un exemple, je crois, mais je peux me tromper, hein, je crois que vous aviez par exemple détecté qu'à une certaine allure, tout le monde naviguait qui à bloc,
ouais.
Et que vous, en déquillant un petit peu, vous alliez plus vite à cette même allure, un peu contre-intuitif.
Je me souviens
d'une histoire comme ça, non?
Ouais, exactement. De toute façon, il y a plein de choses contre-intuitives. Hein. On va vite dans ce qu'on connaît et on va très peu explorer ce qu'on connaît pas. Mais déjà par l'IMOCA et les foilers, on avait découvert qu'à certaines vitesses, le fait de déquiller nous permettait de récupérer du redressement, en fait. Ce qui est contre-intuitif parce que le bulbe, il pousse vers le bas, et donc on se dit que plus on est quillé, plus on va redresser le bateau. Mais en fait, les bateaux, ils ont ce qu'on appelle du tilt. Donc les quilles, elles sont légèrement inclinées, qui fait que elles se désaxent quand on les pivote. Et donc, au final, le fait de les pivoter et d'accélérer, ça fait comme une aile d'avion, ça génère de la portance. Le voile de quille génère de la portance. Et donc, à un moment donné, ça nous fait plus giter que redresser à partir d'une certaine vitesse. Et donc, le Volvo 65, il a beaucoup moins de tilt qu'un IMOCA. Et donc, cette portance, personne ne pensait qu'elle existait avec un Volvo qui allait pas assez vite pour ça. Mais on a quand même exploré cette voie-là et on s'est vite rendu compte qu'avec des vitesses supérieures à 20-21 nœuds, la quille est poussée dans le mauvais sens et qu'en déquillant, on pouvait aller plus vite, quoi.
Voilà.
Après, c'est aussi ce qui nous a permis de découvrir des choses comme ça et d'arriver à les tenir jusqu'au départ de la Volvo. Ça a été aussi de pouvoir naviguer avec d'autres bateaux. C'est-à-dire qu'on a, de commencer déjà la campagne tôt, d'avoir une campagne qui était déjà sur sa deuxième campagne, parce qu'il y avait déjà une première campagne Dongfeng, donc c'était un peu la suite du projet, il n'y avait pas toutes les bases à créer. Et donc très tôt, on a mis le bateau en janvier, on était les premiers à l'eau, en janvier 2017, donc l'année de la Volvo. On était le premier équipage dans l'eau. Et puis ensuite, on s'est entraîné à Lorient, où on avait vraiment un rythme de vie à Lorient. Le matin, on se retrouvait pour le petit-déj, on terminait par le repas du soir tous ensemble, et ensuite, on pouvait retourner chez nous pour dormir. Mais tous les matins, on commençait par sport et petit-déj au bâtiment de la base, feu bâtiment de la base qui a brûlé
depuis.
Mais voilà, du coup, on avait vraiment un rythme journée complète où on vivait tous ensemble, même en étant proche de notre domicile, quoi. Et on a commencé tôt, et puis après l'été, on est parti s'entraîner avec Mapfre en Espagne ou à Sanchencho, où là on a fait 3 semaines de camp d'entraînement avec eux, où là on était tous basés là-bas, on s'entraînait, on faisait du tubo de testing tous les deux.
Comparatif de vitesse à de l'auto.
Exactement, hein. donc on travaillait avec eux et contre eux en fait, mais donc il y a des choses qu'on se dit, des choses qu'on se dit pas à la fois. Ce qui a été dur, c'était au départ de s'accorder ensemble sur ce qu'on pouvait partager ensemble. Donc après, qui joue le jeu comment, tout ça, c'est très, très compliqué. Mais il y a forcément des moments sur des tests, pendant un petit laps de temps, tu vas tester ton petit truc. Hop, tu vas voir que ça marche. Tu le remets à zéro. Et puis en fait, voilà. Mais c'est le jeu. Enfin, mais voilà, c'était intéressant. Du coup, on a beaucoup progressé, mais aussi les deux bateaux ont beaucoup progressé sur cette période-là. Ce qui fait qu'on est arrivé au départ de la Volvo avec un gros avantage sur toutes les autres équipes qui ont mis beaucoup plus de temps à trouver des choses. Après, on s'est bien fait avoir par leurs gars aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait toutes les infos de tous les bateaux étaient loguées, et ils avaient mis en place un système de race expert qui analysait toutes les données des bateaux pendant la course. Et donc, dès la première étape, en fait, ils ont divulgué tout ce qu'on faisait à bord, quoi. Donc là, on s'est bien énervé à l'arrivée de l'étape, même pendant l'étape, on était vert que... en fait, eux, leur esprit, c'était aussi d'expliquer à tout le monde ce qui se passait sur les bateaux, et à la fois de pas qu'il y ait pas des équipages qui soient devant dès le début et qui gardent l'avantage toute la course. Donc je pense qu'ils ont voulu reniveler très vite, et donc tout ce qu'on faisait tel bateau et tel bateau, ils sont bord à bord, il y a lui qui va plus vite, il a telle config de voile par rapport aux autres, et puis en fait on voit que celui-là il quille moins que les autres, puis tout de suite il se retrouve entre guillemets intelligent à dire pourquoi ils font ça, à faire de l'architecture navale, à machin, enfin, sauf que le résultat, nous on l'avait, mais on l'avait plus parce que tout le monde le savait après. Donc des petits avantages que tu essaies de tenir, en fait, ça a été un peu la première étape compliquée, donc ça a été très très conflictuel à l'arrivée de cette première étape avec leur gars pour remettre les choses à zéro un peu sur le volet sportif, quoi. Enfin, est-ce que c'est anti-sportif ou pas, et en tout cas est-ce que c'est normal ce que vous faites. Donc voilà, et puis mais le mal était fait. Et après, ça a permis rapidement aussi de reniveler un peu les choses. Mais nous aussi, ça nous a permis d'apprendre des choses. Donc, moi, mon rôle pendant la course, c'était à la fois la préparation des étapes, l'analyse des étapes à l'arrivée, et aussi la veille pendant les étapes, c'est-à-dire tout ce qui est photo, vidéo, tout ce qui traîne sur tous les bateaux et sur tout le monde. On était en veille sur tout ce qui se passait chez tout le monde, quoi. Les points de tir, tout.
Je crois que c'est dès la Volvo de Groupama, Yann Ryun avait l'ordre, ou je sais plus si c'est sur là ou sur l'autre, les médiamans avaient ordre de ne pas prendre les identifications des voiles.
Ah oui.
Les voiles, elles sont marquées
après GV, en interne,
M1, M2, M3, qu'on puisse pas voir, prendre des photos pour qu'on puisse pas voir les configs de voile.
Après, en 65,
puisque elles étaient toutes observées de l'extérieur, quoi.
Oui. Après, en vol 65, le problème, c'est que, Race Expert, déjà, il donnait pas mal les configs de voile de tout le monde, vu que tous les câbles étaient enregistrés. Et les bateaux étaient reliés en permanence à terre. Et après, en tant que monotype, on avait 2 jeux de voiles complets par bateau pour toute la campagne. Donc après, on gérait nos voiles comme on voulait. On avait un nombre de voiles limité de remplacement pendant la Volvo. Donc, il fallait bien gérer les moments où tu remplaçais tes voiles et tout ça. Mais globalement, on avait tous les mêmes voiles, quoi.
Enfin, je rebondissais sur le travail de veille que tu faisais, de voir tout ce qui se passait.
Oui, exactement. Mais du coup, ça joue sur des détails de points de tir, de longueur de loupe, de config par rapport aux conditions. Donc nous, on avait nos conditions, on avait le tracker aussi, donc on convertissait le tracker en log pour avoir les autres bateaux et pouvoir faire du comparatif de eux et nous. Enfin bon, voilà, il y a tout un travail un peu de geek à terre, mais ça, c'était pas mon job parce que je sais pas faire. Mais avec Cyril, l'autre data analyst qui est vraiment très très performant là-dedans, c'est sûr qu'on avait tous les outils pour bien analyser un peu chaque étape, quoi.
Tu vas participer à l'une des étapes, hein.
Je fais 2 étapes sur cette
Volvo. Tu fais 2 étapes, hein.
Ouais. Parce que l'objectif, c'était
un peu à la minute, il y a pas le siret tata.
Ouais, voilà, disons que toutes les naves avant la course, de toute façon, j'étais à bord tout le temps. L'objectif, c'était quand même de bien connaître le bateau, et le bateau, je le connaissais bien aussi parce que le mode d'emploi, on l'avait un peu créé tous ensemble. Et j'étais un peu l'initiateur de ce mode d'emploi, en tout cas dans la partie perf. Donc bah c'était intéressant et puis voilà, avec Charles on se connaissait depuis longtemps, avec les marins du bord on se connaissait depuis longtemps pour avoir été concurrents sur la solitaire aussi, enfin sur le circuit Figaro ou autre. Et voilà, donc toute la préparation, les stages d'entraînement, on avait fait tout ce qui est stage de survie à Newcastle. Enfin, j'étais de la partie sur tout ce qui se passait pour être embarquable à n'importe quel moment. Et puis malgré le fait qu'il y avait 12 marins sur la liste de départ, on sait qu'un tour du monde c'est très long, qu'on peut en perdre en route, que on peut aussi penser que ça va bien le faire avec tout le monde et qu'en fait ça le fait pas avec tout le monde. Donc j'étais un peu le joker à terre s'il fallait embarquer quelqu'un, quoi. Donc voilà. Donc ça, il y a eu des opportunités. J'ai réussi à faire deux étapes. La première en tant que remplaçant last minute. On peut dire very last minute.
C'est ça. Vas-y, raconte-nous rapidement.
Bah, mais... c'est le truc le plus improbable qui peut arriver en tant que skipper remplaçant, c'est que je me suis retrouvé remplaçant de l'étape de l'océan Indien, donc départ pour les mers du Sud à Cape Town. À Cape Town, on y passe pas mal de temps puisque c'est l'arrivée de l'étape 2. Débrief de l'étape, donc toute la partie perf, et puis au bout d'un moment on lâche le débrief de l'étape pour passer à la préparation de l'étape suivante. Donc là je bosse avec Cyril, avec Marcel Van Trist qui était avec qui on a travaillé tout ce qui est préparation d'étape sur toute la campagne. Donc avec Marcel on était en préparation d'étape toutes les étapes de la Volvo 2017-2018.
C'est parti de l'équipe de routage d'Armel Leclerc sur l'Arkea Ultimate Challenge.
Exactement. Ouais, et donc voilà, donc c'était j'étais dans la phase préparation, quoi. C'est-à-dire qu'on allait faire des relevés sur l'eau tous les jours sur certains jours, enfin sur des relevés de courant, des relevés de vent avec Cyril. À la fois on préparait bien l'étape. Mais voilà, je me suis retrouvé le matin du départ à Cape Town. Donc là, on part sur Cape Town Melbourne, mois de décembre. Donc l'océan Indien, étape assez renommée quand même. On a Bonne Espérance qui est pas très loin. Et le matin du départ, on a Daryl Wislang, le néo-z, qui est là en famille avec son. Il a un petit garçon tout bébé. Et il se bloque le dos en changeant la couche de son gamin le matin du départ. Et donc moi le matin, on se réveille tôt avec Marcel, avec Cyril. On a une première navette qui nous emmène à la team base très tôt le matin. Et puis là, je me lève comme un matin de prépa de départ. La veille, j'ai fait mon check-in pour rentrer l'après-midi en avion en métropole. Enfin, tout est prêt pour partir. Je laisse tout mon sac d'affaires à l'hôtel, enfin voilà, mon passeport à l'hôtel, enfin tout est voilà, je pars pour une journée de travail, quoi. Et puis j'arrive dans la navette qui nous emmenait à la team base, et puis Bruno il s'assoit à côté de moi et puis il me dit on a Daryl qui est pas bien en point, est-ce que toi partir sur l'étape c'est quelque chose qui est faisable? Là, je me décompose un peu, mais voilà. Donc, on en parle tout le trajet et tout ça. Charles avait la possibilité d'embarquer un deuxième Chinois à bord qui était prêt avec son sac, mais pour l'Indien, il voulait que ce soit moi. Quoi. Il voulait que ce soit moi, même si j'avais moins navigué que lui sur le bateau et tout ça. Mais voilà, il voulait un barreur de confiance pour le bateau, pour les mers du Sud, pour prendre des quarts de barre. Et voilà. Et donc, du coup, c'était pas non négociable, mais on sentait que c'était moi, quoi. Donc voilà, donc il a fallu gérer plein de choses, mais l'objectif c'était quand même et surtout de préparer ce départ d'étape comme si de rien n'était. Donc je pars à la team base avec Marcel, on prépare l'étape, voilà, on prépare le débrief météo. Tout pendant ce temps-là, il y a rien de sûr parce qu'on sait pas. Daryl, il va voir le médecin, machin. Bruno est en discussion, je discute avec Charles. En parallèle, on sait pas si je pars, mais il me faut me préparer un sac de fringues parce que j'avais rien. Ouais. J'avais non plus rien prêt à partir le matin du départ, en tout cas. Donc, je me retrouve à prendre finalement le sac de Daryl qui est resté à bord du bateau, enfin qui était déjà prêt et embarqué à bord. Mais on fait pas le même gabarit, mais bon, c'est pas grave. Au mieux des cirés trop grands que trop petits. voilà. Et donc, du coup, au moment du départ, je me rappelle vers 10h, un truc comme ça, c'est brief. On fait notre briefing météo à la team base et après ils partent en sailor parade pour embarquer à bord et ensuite partir en mer. Et donc moi au début du briefing météo, il est acté que c'est moi qui pars à bord. Sauf que j'ai encore le custom à faire, l'immigration, parce que j'avais fait mon checking d'avion, mais il a fallu aller récupérer mon passeport à l'hôtel pour ensuite aller à l'immigration, tamponner mon visa pour dire je pars en bateau et pas en avion, quoi. Sauf que c'était finale de championnat du monde de rugby à 7 à Cape Town. Et donc incirculable dans la ville. Donc depuis le matin, ils avaient organisé une récupération de passeport. Et moi, je me suis retrouvé à aller l'immigration en Zodiac en partant de la team base. Donc j'ai pas fait le brief météo. Je suis parti en slaps et en short direction l'immigration. Tamponner mon passeport et en fait je suis parti de l'immigration en Zod directement à bord du bateau. Donc j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. J'ai pas fait la Sailor Parade, je me suis retrouvé à bord du Volvo pour un départ ponton avec mes slaps que j'ai donné vite fait à l'équipe et avec un sac de fringues que j'ai découvert à bord. On partait pour le grand froid.
Voilà comment on s'engage dans le grand sud.
Non, mais au final, ça s'est très bien passé. Ouais. On finit deux à l'étape. Enfin, c'était parfait, quoi.
Dernier petit mot sur cette aventure incroyable, parce que la campagne est quand même magique, quoi. Hein. Elle se finit par une étape légendaire à La Haye. Mais du coup, je voudrais juste revenir sur comment t'as vécu à terre, toi, ce finish extraordinaire, quoi.
Ouais.
Extraordinaire.
Ouais. Bah, ma plus grande frustration, c'est que je l'ai vécu de Lorient. Je l'ai pas vécu de là-bas.
Pas avec l'équipe.
Non. Bah alors il y avait des. Ça a été assez incroyable, mais j'étais prévu déjà d'arriver un peu plus tard et en fait bon niveau logistique et tout ça, il y avait plus rien de possible pour emmener du monde plus tôt et donc du coup j'ai dû m'en tenir à ce qui était prévu au départ et donc arriver après l'arrivée. Donc je l'ai pas fini. Il y avait toute l'équipe qui était là-bas pour fêter l'arrivée du bateau au ponton et moi je l'ai vécu de chez moi.
Ah ouais.
Donc c'est juste la seule frustration de cette Volvo, c'est d'avoir fini comme ça.
Plaie,
ah non, pas du tout, parce que voilà, mais c'est purement égoïste et personnel, mais c'était quand même deux ans d'implication dans ce projet qui se termine comme ça, quoi.
Ouais.
Mais voilà, mais c'est, enfin. Bon,
juste pour rappel,
une victoire sur la Volvo, incroyable, deux étapes en mer, une expérience incroyable.
Pour résumer très rapidement cette dernière étape pour les gens qui s'en souviennent pas ou qui ne connaissent pas forcément l'histoire, hein, c'est que il y a un choix à un moment où il faut savoir soit vous.
Ouais.
Tout est encore possible, plusieurs bateaux peuvent gagner la course.
Ouais.
Il y a un choix de passer le long des côtes hollandaises.
Ouais.
Pour rejoindre La Haye, ou soit de faire le tour des bancs de sable dans l'ouest.
Exactement. En fait, il y a tellement de zones interdites avec les éoliennes et tout ça là-bas que du coup, il y avait deux couloirs possibles pour arriver jusqu'à La Haye.
Et du coup, Dongfeng choisit le couloir à terre. Tous les autres choisissent le couloir, pas tous. Enfin, il y a des gens derrière qui vont.
Ouais, des gens derrière qui suivent.
Mais les gens avec qui vous battez pour
le Brunel, Mapfre, notamment, qui font le nord. Alors qu'on est avec eux au moment du split ouest-est, quoi.
Voilà, exactement.
Ouais.
Et donc ça donne ces images bien sûr évidemment incroyables où vous découvrez
Nous c'était décidé depuis le départ, enfin c'est pas décidé depuis le départ, parce que clairement on peut pas dire c'est décidé depuis le départ, c'est clairement le choix à bord qui fait qu'à ce moment-là il faut faire le choix. De toute façon il y a qu'eux qui peuvent décider, il y a pas de contact avec la terre, il y a qu'eux qui décident à bord et donc Pascal et Charles à ce moment-là qui décident l'est. Mais tout ça c'était envisagé depuis le départ que c'était notre choix numéro un en termes de stratégie selon le timing d'arrivée à ce moment-là. Moi, je me rappelle très bien le matin du départ de cette étape-là, aller positionner le waypoint sur un banc de sable entre deux éoliennes pour ce passage à l'est, parce que c'était pas dit qu'on puisse vraiment passer en termes de hauteur d'eau sur les bancs de sable. En tout cas, les passages, il y en avait pas 36 000, il y en avait qu'un où il y avait le tirant d'eau pour passer un Volvo, quoi. On en était à se discuter avant le départ. C'est quoi le tirant d'eau d'un Volvo à 30 degrés par le safran, quoi. Donc on en était là parce qu'on savait que ça pouvait se jouer par là.
Voilà. Mais donc ça se joue là et ça donne une arrivée au couteau.
Exactement.
À vue.
Bah juste incroyable.
L'équipage comprend qu'il a gagné et franchit la ligne sous la caméra de Martin Kyrizori.
Ouais. Incroyable.
Voilà, c'était vraiment.
Ah ça met des frissons. Hein.
Ouais tout à fait. C'était vraiment extraordinaire. Alors comment on sort d'une campagne comme ça, parce qu'après on vous vivait.
Bah, je l'avais anticipé un peu.
Ah, toujours.
je l'avais anticipé un peu parce que c'était la deuxième de Dongfeng et que c'était pas dit que ça, enfin, de toute façon, a priori, c'était fini. Donc moi, j'avais une suite à faire, hein. Enfin, de toute façon, il fallait que j'envisage une suite. Donc, ce projet, il était géré par OC Sport, le projet Dongfeng, qui organise la solitaire, qui organise la route du Rhum, qui organise pas mal de circuits et qui, l'année 2018, il y a un projet qui s'est mûri un peu pendant ces étapes, enfin pendant ce projet Volvo, c'était que ces sports allaient récupérer un hangar à Lorient et allaient essayer un peu de remettre en place de continuer un peu cette partie gestion de projet en plus de cette partie organisateur d'événements. Et donc le hub by OC Sport a été créé en 2018 du coup en récupérant le Glorieux 1 par OC Sport. Et donc bah déjà c'était un premier élément qui faisait que il y avait une base potentielle pour remonter un projet sportif. Déjà via OC Sport et le hub OC Sport, donc avec un bel outil de travail. Et puis moi j'avais vraiment envie de reprendre un projet à moi aussi, donc de réexister en tant que sportif à part entière. Et bah il y avait une belle opportunité, c'est que le Figaro changeait de support, et donc du coup 2019 allait être l'arrivée du Figaro 3, ce qui fait que en 2018 début 2018 j'ai posé un acompte. Le projet Volvo m'a permis de poser un acompte pour acheter un Figaro 3. Donc très rapidement je me suis positionné dans les 50 premiers, j'étais le numéro 2 je crois à poser l'acompte, donc du coup j'étais le deuxième ou le troisième livré à l'Orient du Figaro 3. Mais rapidement j'ai fait bah voilà, c'est ça que je veux faire. Donc déjà j'achète un bateau. Et après, je vais essayer d'aller chercher des sponsors et d'aller trouver les sous, parce que j'aurai une base déjà. Moi, le premier risque, c'est moi qui l'ai pris. J'ai posé, j'ai acheté un bateau. Donc après, ben, je suis allé voir des partenaires, des prospects, des gens avec qui j'étais déjà en contact dans mon précédent projet, notamment quand j'étais avec Jean-Pierre. L'objectif pour moi, à ce moment-là, c'était d'essayer de prendre la suite de Jean-Pierre sur le projet IMOCA, donc d'aller démarcher des partenaires. On avait fait quelques rendez-vous avec Luc Talbourdet, notamment. Pour essayer d'aller démarcher des partenaires, et c'était des contacts où à ce moment-là j'avais eu des noms, je vais pas dire plutôt parce que c'était des noms, mais c'était pas des vrais noms, c'était des noms ponctuels, c'était non pas tout de suite, c'est pas le moment, on se rappelle plus tard. Et donc bah 4 ans après c'était plus tard, et donc du coup j'ai rappelé le Laurent Batteur, qui est à la tête des laboratoires Gilbert, le groupe Gilbert à Caen. C'est le premier que j'ai rappelé. Parce qu'on s'était dit qu'on se rappellerait. Moi j'ai dit bah je vais faire mon petit chemin et puis je vous rappelle plus tard. Et donc j'ai fait le projet IMOCA avec Jean-Pierre, j'ai fait la Volvo avec Dongfeng, et derrière je suis allé le voir en disant bah là j'ai un projet qui est beaucoup moins coûteux qu'un projet IMOCA. Je sors de la Volvo, j'ai vraiment envie d'y retourner, et là il y a une belle opportunité là de monter quelque chose, et donc un projet Figaro 3. Et donc on est parti ensemble sur 3 ans. J'avais acheté le bateau, donc moi le premier risque c'est moi qui l'avais pris. Donc ça réconfortait un petit peu dans l'idée ça rassure le partenaire qui dit je suis pas le seul à m'engager dans l'histoire quoi. Donc c'est un projet qui était assez qu'on a bien structuré pendant 3 ans avec des partenaires complémentaires aussi, parce que le projet était pas financé à 100%, donc c'était un peu compliqué. Toujours compliqué de c'est des projets où c'est compliqué d'avoir un partenaire qui met quand même beaucoup, donc qui veut presque tout. Et à la fois, il faut quand même trouver des partenaires complémentaires, mais pour lesquels c'est plus difficile d'offrir quelque chose. Et donc, c'est pour moi quelque chose, c'est le plus difficile à préparer quand on va vendre un projet, c'est de pas donner trop. Parce qu'après, il n'y a plus de place pour boucler, quoi. Donc ça a été un projet sur 3 ans qui a été top en Figaro 3. Qui m'a permis aussi de faire plein d'autres choses en parallèle, notamment de l'IMOCA avec Isabelle, Joshke avec MACSF. Je fais une Jacques Vabre avec Isabelle. J'ai pas mal travaillé avec elle sur la partie perf aussi sur ce projet IMOCA depuis 2018. 2018-2019, donc avant les transformations du bateau à dérive vers le bateau à foil. Donc voilà, c'est un projet avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, où on a beaucoup évolué ensemble, que j'adore. Donc voilà, top.
Et comment c'est de revenir au Figaro après avoir fait toute cette expérience là
sur 2019, je fais aussi la Jacques Vabre avec Layton, avec Sam. Ouais. Mais c'est pareil, c'est encore une fois un projet qui était pas du tout prévu et qui est tombé comme ça, parce qu'en fait Arthur Levaillant, qui était à la tête de Layton à ce moment-là, 2019, avait décidé de faire la Jacques Vabre avec Sam et Goodchild. Du coup, ils préparaient la Jacques Vabre ensemble et moi je me retrouve à faire le Fastnet en IRC au mois d'août. Et puis bah pendant le Fastnet, un coup de fil de Arthur et de Sam pour m'appeler, pour me dire que Arthur, finalement, qui est à la tête du projet, ne peut pas faire parce qu'il va se faire opérer à l'automne, ne peut pas le faire, et du coup il me propose de faire la Jacques Vabre avec Sam. Donc on se retrouve, le co-skipper a trouvé un nouveau co-skipper. Enfin, bon voilà, et du coup je me retrouve avec Sam à préparer la Jacques Vabre en septembre.
Et vous faites deuxième, ouais.
Et du coup on fait deux derrière, le premier SCO qui est Crédit Mutuel à ce moment-là. Ouais.
Et du coup, ma question était, c'est comment de revenir à la solitaire quand on a bouffé pendant 6 éditions?
Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Non, mais surtout que c'est un bateau qu'on connaît pas. Le Figaro 3, qui est un bateau.
Cinq ans après, quoi.
Ouais, 5 ans après.
Mais par contre, t'es fort de plein d'autres expériences.
Ouais, exactement. Alors, j'ai plein d'expériences qui me permettent d'avoir des repères, de, voilà. Après, c'est un bateau qu'on connaît pas. Une première année où on a pas mal de difficultés techniques sur les bateaux. Le bateau est pas du tout mûr encore. Il y a des fuites d'eau sur les trappes de foil. Il y a plein de trucs. Il y a des problèmes sur les safrans. Il y a des problèmes un peu partout, quoi, qu'il faut résoudre. Donc voilà. Donc, c'est un projet où on découvre plein de trucs techniquement, où moi j'arrive avec de l'expérience, autre. Et voilà. Et je me retrouve à refaire du solitaire. Donc, c'est une super année. En plus, ce début de projet Figaro, Charles, il a plus le projet Dongfeng non plus, Caudrelier. Et du coup, on se retrouve à faire du Figaro 3 sur mon bateau tout le début de l'année 2019 ensemble. Donc, on fait la Sardinia ensemble, la Sardinia Cup ensemble au Sable d'Olonne au mois de mars-avril 2019. On fait tous les entraînements en double ensemble. Celui, il ne sait pas encore ce qu'il va faire après. Mmh. Donc, ça commence à se dessiner avec Gitana. Ouais. Mmh. Il commence à le savoir. À la Sardinia, il commence à me dire que ça sent... Enfin, c'est parti... a priori, c'est parti avec Gitana. Mais voilà, lui, il est dans l'environnement,
vient à la base.
OC Sport, le Hub, Figaro 3, potentiellement, c'est écrit qu'il va faire la solitaire 2019 avec OC Sport, avec le bateau d'OC Sport. Mais voilà, lui, il a d'autres choses plus ambitieuses qui se dessinent aussi. Donc voilà, et au final, il fera pas la solitaire 2019 et Johan sera recruté au dernier moment pour aller faire la solitaire.
Qui va gagner.
En 2019, et en plus qui va gagner. Donc voilà, donc, ça a été 3 années de Figaro 3, super. Ouais. Marqué par le Covid au milieu. Ouais. Voilà, je fais...
Alors, 2019, j'ai pas ton score, mais 2020, tu fais 6e.
Ouais, et après, je fais 5e.
5e.
Bon. Ouais, voilà.
T'as pas perdu la main quand même.
Bah non, plutôt régulier, mais pas la confiance que je pouvais avoir en Figaro 2 sur mes années fast. C'est un, ouais, voilà, je sais pas, j'avais changé d'esprit, je pense, c'est pas le projet dans lequel je me suis le plus épanoui non plus. Malgré tout, c'était 3 belles années. Ouais. 3 belles années où je fais du Figaro.
Oui, voilà, tu multiplies les supports quand même.
Je fais du Figaro 3 et là, je fais du Class 40 avec Layton, je fais de l'Imoca avec Isa, je fais pas mal de trucs. Et en parallèle, voilà, j'ai toujours fait, en 2018, j'étais routeur de Thibaut Vauchel sur la route du Rhum. En binôme avec Fred Dutte, on a passé pareil, une course incroyable. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du mode avec Oman Sail. J'ai fait beaucoup de tours d'Arabie aussi avec Sydney.
En Diam 24, du coup.
Faire un an avant le Diam 24, en phare 30, on a gagné. Ben, on l'a fait 4 fois. On l'a gagné 4 fois avec Sydney. Voilà. Enfin, j'ai toujours pris beaucoup d'expérience à droite à gauche sur plein de supports différents.
Alors, on va reboucler avec le début de notre discussion parce que il y a la naissance de ce projet Class 40 qui s'enchaîne presque, j'allais pas dire miraculeusement, mais en tout cas de manière très propre avec la fin du projet Figaro. Mais tu vas faire juste avant ça, une petite incursion encore à nouveau dans le monde. Alors, ça s'appelle The Ocean Race maintenant. Et l'an dernier, tu as fait un petit passage avec Berbé Ossim, quoi.
Ouais, alors il y a eu du coup une année un peu différente. Enfin, il y a eu une année de transition quand même entre les deux.
Exactement.
Parce que en 2022, projet Figaro 3, c'était 19-20-21. Mm-hmm. Fin 2021, fin de projet avec le groupe Gilbert. En Figaro 3, la question s'est posée de continuer, mais moi j'avais pas envie de continuer. Le Figaro, voilà, le Figaro, c'était ma 9e année du coup, même si c'était avec une pause, mais là clairement c'était pour moi la fin du Figaro. Je voulais vraiment faire autre chose, quoi. Et donc malgré la possibilité que ça continue avec mes partenaires, j'ai plutôt préféré le choix de ne pas continuer. Et donc j'avais un Figaro 3 sur les bras à louer que j'ai ensuite vendu. Mais voilà, je voulais faire autre chose. Je voulais pas continuer coûte que coûte à faire de l'alimentaire en Figaro, quoi. C'était pas mon objectif. Mon objectif, il était de m'épanouir sportivement. Mmh. Et donc, cette année 2022, j'avais rien de concret. Je dis, à mon entourage, c'est bien, cette année, ça va être une année plus calme. Bon, en fait, c'est l'année où j'étais le plus pris presque. Parce qu'au final, j'ai commencé à... encore une fois, on est des marins indépendants, on a notre structure, et pour vivre, il faut aller travailler, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler, mais différemment. J'ai fait beaucoup de... Je me suis servi de mes diplômes, là, pour le coup. J'ai fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de coaching sur, au début, des IRC, beaucoup. Donc, un groupe d'entraînement, enfin, à la Trinité, d'abord, qui a été ensuite Orlabé. Mais au départ, Orlabé, ou en tout cas le groupe d'entraînement de la Trinité en IRC, ça a démarré pendant le Vendée Globe d'avant, où moi j'avais déjà, enfin, je travaillais déjà avec pas mal d'IRC comme ça en parallèle, de l'accompagnement plus individuel, personnel, et puis en fait, ça a fait boule de neige et puis ça a intéressé beaucoup de monde. Et puis très rapidement, pendant le Vendée Globe, je faisais, ou pendant les hivers, j'organisais des visios avec 10, 15, 20, 25 personnes qui faisaient de l'IRC, où on faisait 2 heures tous les mardis soirs souvent de 20h à 22h ou 23h, j'organisais des visios, mais sur plein de thèmes. Ça a commencé pendant le confinement, et puis ça a continué après, sur tous les compartiments du jeu, pour préparer une transat, pour faire... tu vois, ça peut être du SPER, de l'ELEC, la gestion de l'énergie, ça va être travailler la stratégie, utiliser le logiciel de navigation, ça va être gérer une course sur 20 jours, ça va être tous ces sujets-là que beaucoup d'IRC, avec l'arrivée du double, avec l'arrivée des transats en double, la Transquadra, la Cap Martinique, et ben beaucoup de personnes qui ont des habitables, qui se retrouvent à naviguer en équipage réduit et qui veulent faire des courses dont ils ne connaissent pas du tout l'exercice. Mmh. Et donc, bah, nous, on avait beaucoup à apporter. Et donc, je me suis retrouvé à faire ça, au final. Donc, beaucoup de visio, tous les mardis soirs, avec des thèmes différents, où moi, j'avais créé un canal de discussion avec eux pour essayer de savoir c'est quoi les sujets qui les intéressaient, quoi. Et donc, moi, je bossais dessus pendant la semaine, et puis on se retrouvait pour la visio où de manière complètement modeste, on enregistrait le truc, c'était diffusé ensuite aux autres qui étaient absents, mais c'était un échange, quoi. Bon, ça, c'était l'objectif, c'était progresser tous ensemble. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et puis après, je me suis retrouvé à les entraîner sur l'eau. Donc petit à petit, à un, deux bateaux regroupement, on s'est retrouvé à beaucoup de bateaux à la Trinité. Or, la baie n'existait pas encore, et on s'est retrouvé à la Trinité là-bas avec pas mal d'IRC. Moi tout seul à trouver un bateau, à essayer de les encadrer, du coup à faire vraiment de l'entraînement à la Trinité, quoi. Donc ça, c'était chouette, mais ça devenait trop compliqué pour moi à gérer tout seul. Donc Orlabé, on a fait ça au début. Enfin, après est arrivé Daniel avec Orlabé à structurer le truc. Daniel Souben, exactement.
Invité d'interview.
Et donc là derrière,
précédent
numéro. Ouais. Et ça s'est vraiment super bien structuré, quoi. Et donc là c'était top, parce que moi je pouvais pas, enfin tout seul je pouvais plus. Et donc ça s'est structuré avec l'arrivée de Daniel. Avec donc moi je me suis retrouvé plus à facturer ma presta aux IRC, mais à facturer à Orlabé ma présence sur les entraînements, avec Daniel qui gérait la mise à disposition d'un Zodiac, la mise à disposition des moyens finalement, que ce soit logistique sur place et moyens techniques sur l'eau, et donc aussi avec un groupe de plus en plus fourni, donc avec des besoins en matériel, en entraînement, moi je pouvais pas tout seul le faire, donc il y a eu beaucoup aussi d'autres personnes qui sont venues encadrer avec moi, donc c'est vite retrouvé à deux entraîneurs, et puis à trois, quatre, à d'autres, quand moi je pouvais pas non plus, quoi. Donc ça a été la partie Orlabé. Et donc 2022, j'ai fait beaucoup d'entraînements IRC, notamment pour Orlabé là-bas. De l'IRC, je suis passé aussi à entraîner les classes 40 Orlabé aussi, parce qu'il y avait un groupe de classes 40 qui a été intégré avec Daniel et structuré là-bas. Donc je me suis retrouvé à faire les IRC et les classes 40. Et puis, j'ai jamais lâché aussi non plus mon activité analyse de perf. Et donc, Corentin Douguet, qui avait lancé son projet Keguiner pour la route du Rhum, en début de l'année, très rapidement, il m'a demandé si on pouvait faire un peu d'analyse de perf avec son nouveau bateau, avec son projet. Et donc, on est parti en analyse de perf avec Co sur toute l'année 2022. Puis, Johan, qui construisait le même bateau, Johan Richaume, qui construisait à peu près le même bateau que Corentin, c'est allié avec Corentin pour faire toute l'avant-saison avec Co, et ensuite en attendant l'arrivée de son bateau, donc ils ont fait la Normandie Channel Race ensemble. Donc du coup je me suis retrouvé à faire l'analyse de perf pour Corentin, pour Johan, et puis en bossant pour les deux sur toute l'avant-saison, on a décidé ensuite, ils m'ont proposé finalement, eux ils étaient intégrés pour la forêt avec un troisième bateau qui était Martin Lepape, qui découvrait aussi un VPLP tout neuf. Ils se sont vite retrouvés à me demander finalement si je pouvais faire à la fois l'analyse de perf individuelle des trois bateaux et à la fois venir entraîner à Port-la-Forêt pour préparer toute la saison classe 40 pour la route du Rhum. Et donc je me suis retrouvé finalement en discussion avec le pôle pour être entraîneur à Port-la-Forêt, référent sur le groupe classe 40.
D'accord.
Et donc je me suis retrouvé à faire tous les entraînements. Donc en binôme toujours avec Erwan Tabarly ou avec Yann Eliès ou avec un entraîneur du pôle, mais j'étais le référent classe 40 à faire à la fois de l'entraînement sur l'eau, de l'analyse de perf groupe et de l'analyse de perf individuelle, donc gérer la base de données des trois bateaux en individuel pour préparer la route du Rhum, et puis au départ de la route du Rhum pour faire toute la prépa météo pour les trois classes 40.
Ok, donc une saison bien chargée.
Ouais, et à côté de ça j'ai beaucoup navigué aussi cette année 2022 plutôt en IRC, En IRC, en classe 40 aussi, parce que j'ai fait la Normandie Channel Race du coup avec Le Gallet, qui est mon partenaire aujourd'hui, avec l'ancien skipper Le Gallet, Pierre Cazenave-Perret. Du coup, c'est cette année-là finalement qui était l'année de transition qui a construit mon engagement et mon projet d'aujourd'hui. Je fais une Middle Sea Race avec un équipage du Sud aussi. Enfin, j'ai beaucoup navigué aussi, mais sur plein de supports différents.
Comme toujours.
En tant que prestataire libre.
Comme toujours. T'as
voilà, exactement.
Presque quand même une caractéristique.
Mais avec ce fil conducteur qui était quand même cette partie coaching pour le groupe de Port-la-Forêt. Classe 40 avec mes trois bateaux, Corentin, Johan et Martin, et les trois font dans les 10. Co fait 3, Johan gagne, Martin fait 7 ou 8, je crois, enfin dans les 10.
C'est marrant de coacher des gens sur un support que tu vas pratiquer ensuite, quoi.
Ouais, voilà, bah ouais.
Parce que t'as pu prendre pas mal de...
Et puis cette année-là, en fait, je bossais pour eux et on travaillait ensemble, et à la fois, tout le monde savait que j'étais en train de construire un bateau pour moi pour l'année d'après, donc c'était utile pour tout le monde, en fait, cette année-là.
Tout le monde était gagnant.
Ouais, exactement.
Allez, deux petites questions parce que ta petite famille vient de rentrer. On entend les enfants dans le couloir à côté, donc j'ai encore deux questions et après c'est fini, je te libère. Donc la première, c'était ma question initiale sur tu vas faire une petite pige sur Pierre Béolcim en 2023, histoire de juste de continuer à bien remplir la chose.
Ouais. Bon, là, c'était très ponctuel. Ce qui l'a permis, en fait, c'est que j'y suis passé vite, mais en fait en 2022, je fais donc la Normandie Channel Race avec Le Gallet, avec Pierre Cazenave-Perret. En fait, lui normand aussi, entreprise normande, Le Gallet, basé à Aéroville-Saint-Clair, juste à côté de Caen. Dans le secteur entrepreneurial, donc dans les entreprises normandes, on les cite directement. Clairement, c'est un acteur fort. Mais du coup, on se connaissait pas ou très peu. On s'est rencontrés pendant la Jacques Vabre 2021 à l'arrivée en Martinique. Moi, je courais avec MACSF, avec Isa. Lui, il était avec Kevin Bloch en classe 40. Ils avaient un Mac 3, floqué Le Gallet, et on s'est rencontrés, on a échangé quelques mots en arrivant en Martinique. Moi, je savais que l'année 2022, j'aurais pas de projet à moi, donc j'allais avoir du temps libre. Et puis, il en est venu encore une fois de fil en aiguille à se dire, ton projet, il est super, si jamais tu veux que je t'aide cet hiver, ils étaient basés à Lorient, le projet, sportivement. Si jamais tu veux, enfin moi en tout cas cet hiver je suis disponible, je peux t'aider à préparer ta route du Rhum, c'est ton objectif fort. Moi au contraire, en tant que Normand, moi j'ai du temps, donc j'habitais à Lorient, c'est facile. Et donc, c'est né comme ça où on s'est rencontrés l'hiver au retour du bateau, à se dire avoir cette idée de se dire on a une course à Caen, si on était deux Normands ensemble sur le bateau, ça pourrait avoir du sens. Et puis il m'a proposé de participer à la Normandie avec lui. Et donc on s'est entraîné un peu, on a préparé le bateau, le projet ensemble à Lorient, et puis on a fait cette Normandie Channel Race. Pendant toute cette préparation hivernale, lui dans sa tête c'était clair, en fait, et moi je le savais pas au début, mais c'était clair qu'il allait jusqu'à la route du Rhum, mais qu'après lui il arrêtait pour se consacrer, il est jeune,
avoir un vrai métier.
À se consacrer au métier de ses études. Ouais. Et donc voilà. Et donc, c'est pour lui c'était un projet de 2 ans qui s'arrêtait à la fin de la route du Rhum. Donc très rapidement dans notre préparation hivernale, il en est arrivé à se dire ce projet initié chez Le Gallet, il est super. Ce serait quand même super dommage qu'il s'arrête. Et donc il m'a rapidement proposé, une fois qu'il l'avait plutôt validé en interne avec Le Gallet, qu'il pouvait y avoir une suite éventuelle. Il m'a proposé finalement que je prenne sa suite et donc de travailler sur un projet classe 40 tel que je le voyais. Pour avoir une visée performance, quoi, avoir un projet existant en classe 40 avec les moyens de ses ambitions d'avoir du résultat. Et donc, moi je leur ai proposé un projet, un budget qui allait en conséquence avec la construction d'un bateau neuf et tout ça, parce que finalement on était vraiment dans le passage entre les pointus et les SCO, que le bateau dont ils disposaient à l'époque c'était le 145, un bateau qui commençait à avoir de l'âge, un Mac 3, donc un bateau plus pointu. Et donc, on voyait très bien que les SCO, ils étaient en train de tuer le match. Donc, il fallait, pour avoir des résultats, en tout cas, si on voulait un projet performance, ça passait par l'acquisition d'un SCO. Et donc, moi, je leur ai proposé la construction d'un bateau neuf ou le rachat d'un bateau très performant, mais très récent. Il n'y avait pas 36 000. Et donc, on a fait le choix de se faire un bateau personnalisé, classe 40, pour ce projet-là. Ce qui fait finalement qu'en mai 2022, quand on arrive tous les deux à la Normandie Channel Race à Caen, Avant même le départ de la course, on se serre la main avec le galet en se disant bah on est parti pour une histoire ouais, ensemble en 2020, en 2023. Donc à l'arrivée de la Normandie, on va signer le bateau neuf. Donc là, je sais très bien qu'on a on a signé un bateau, que 2023, je sais ce que je vais faire. Mais malgré tout, on a signé un bateau qui va arriver tard.
Et qui donc, encore
y a
un peu de place.
Et donc, il y a de la place. Et donc, il y a de la place dans l'agenda pour pas perdre du temps, quoi. C'est surtout encore une question, c'est encore une question de ne pas perdre le temps qui passe, quoi. Le temps qui passe, même si je sais ce que je vais faire dans 6 mois, je veux pas envie de passer ce temps-là dans mon canapé, quoi. Donc, il y a plein de possibilités. Il y a de l'entraînement, il y a du coaching, je fais plein de choses différentes, hein. Voilà, j'ai une activité de revendeur de boots pour des Italiens aussi. Enfin, je fais plein de choses. Donc, mais c'est ça qui est chouette. Et du coup, c'est l'idée, c'est vraiment de mettre à profit le temps disponible pour être encore plus fort sur mes projets après. Et donc, il y a cette opportunité en discussion avec Kevin, notamment dans la préparation de la route du Rhum, d'intégrer le projet Allseam en tant que exactement le même rôle que Dongfeng en fait. Mmh. C'est prendre en charge l'analyse de perf avec une possibilité de naviguer. Voilà. Mais qui est pas claire et définitive, mais l'opportunité se présentera. Et donc voilà. Donc l'idée d'être sur pareil, un foiler dernière génération, intégré dans le projet à partir de la fin de la route du Rhum. Moi je les ai rejoints en Martinique pour ramener le bateau. Donc j'ai fait la transat retour jusqu'à Alicante. Et puis avec un peu de connaissance de la course aussi. Et du mécanisme Volvo Ocean Race aussi, parce que mine de rien, il y a tout un fonctionnement qui est très différent des courses françaises qu'on connaît. Donc dans la façon de discuter avec, d'échanger, de discuter, d'avancer dans les démarches pendant la course. Donc voilà, tout ça je l'avais déjà vécu et j'avais quelques clés, donc c'était intéressant du coup pour moi c'est vraiment le Graal à intégrer quoi. C'est The Ocean Race maintenant, mais c'est une course mythique ouais.
Et donc, tu vas faire juste une étape avant de repartir sur le
ouais,
le
l'opportunité est top, mais par contre, je pose aussi quelques conditions. C'est que mes conditions, c'est que notamment, à partir du mois de mai, je suis plus là, quoi. Donc voilà, après, on doit laisser.
On a vu que la saison 2023, donc, elle avait été dense, hein. Il y avait, parce que t'as couru avec Corentin avant d'avoir ton nouveau bateau. On en a parlé au tout début. Et là, je voudrais parler de...
En fait, c'est pas prévu au départ non plus qu'on loue un bateau pour faire ça. C'est que le retard de mon bateau a fait qu'on pouvait plus se présenter, notamment à la première course de la saison, qui était la Normandie Channel Race.
Qui est à domicile.
Et là, cette course-là, le partenaire, il est partenaire de la course. Elle est à domicile à Caen. Et, être partenaire de la course, avoir un projet identifié ou en tout cas affirmé de classe 40 et ne pas y être, c'était quand même
compliqué.
Donc en janvier, je me rappelle avoir fait un aller-retour entre d'Alicante, je suis rentré à Caen pour une réunion puis reparti à Alicante pour le départ de la Volvo, mais c'était un moment où il était clair que le bateau avait pris du retard et qu'il fallait trouver un plan B finalement pour être présent sur le circuit dès le début de la saison quoi. Et donc du coup, on a fait le choix de louer un bateau. Donc ça a été le plan pareil, hein. Une belle opportunité de trouver un bateau récent, un Mac 5 tout neuf qui n'avait pas encore navigué. Et donc un deal qui a été trouvé pour avoir ce bateau-là pour 2 mois, faire 2 courses, la NCR, les Sables Horta, et ensuite consacrer à la mise à l'eau d'une autre.
Faut le préparer, s'entraîner. Enfin bon. Donc là, tu vas avoir à nouveau une saison bien remplie, hein, puisque le circuit classe 40 cette année est plutôt sympa. Hein, c'est l'Atlantique, la remontée le long des côtes des États-Unis avec l'Atlantic Cup et le retour avec Québec-Saint-Malo.
Exactement.
Très très belle course.
Et on finit par la NCR à domicile, la course du projet.
Et alors, la dernière petite nouvelle, c'est que tu sais déjà ce que tu vas faire l'hiver prochain, puisque tu intègres la direction de course du Vendée Globe. Alors voilà, je voulais pas rester assis dans ton canapé.
Le temps libre, j'aime pas ça, moi. Ouais, le temps libre, je sais pas faire. Cette année, je vais faire beaucoup de choses encore. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a déjà, là, ce qui nous a pris beaucoup de temps cet hiver, c'est la préparation du bateau. Mm-hmm. Suite à la Jacques Vabre de l'année dernière, c'est vraiment repréparer ce bateau. Donc, un chantier court à Caen, on vient de remettre à l'eau. Donc là, on prépare vraiment activement The Transat CIC. Départ de Lorient vers New York. Ensuite, à l'arrivée de New York, effectivement, comme tu l'as dit, un gros convoyage vers Québec. Ensuite, un peu de temps off, peut-être pour souffler un peu cette fois-ci, avant de prendre le départ le 30 juin pour la Québec-Saint-Malo, en équipage, à 3 cette fois-ci. Retour en Bretagne, Saint-Malo, 14 juillet. Puis ensuite, repréparation du bateau pour la NCR, donc Normandie, en septembre. Donc un projet classe 40, fil conducteur. Comme d'habitude, sur lequel je suis à 100% du temps jusqu'à la fin de la NCR, bien sûr. Et puis, effectivement, en parallèle, une belle opportunité qui s'est présentée à moi, il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques semaines, mois, d'intégrer la direction de course du Vendée Globe, côté d'Hubert Lemonnier, Claire Renoux, Pierre Reiss et Jacques Carrez. Donc voilà. Donc du coup, ça y est, c'est
ça
fait.
Ça t'avais pas fait encore?
Non, j'avais pas fait. Il y a eu quelques, alors il y avait quelques projets qui avaient pas été à terme il y a quelques années. Pareil, mais voilà. Donc du coup, c'est intéressant aussi de passer de l'autre côté de la barrière sur un événement qui est un peu le plus gros événement qui existe. Donc, encore une belle expérience à prendre.
C'est la prochaine étape?
J'aimerais bien. Non, aujourd'hui, ce qui m'anime, moi, c'est d'être dans des projets sportifs qui sont excitants et passionnants. Là, c'est clairement le cas en classe 40.
C'est un projet sur 3 ans, hein, je crois, hein, c'est ça, hein.
Alors, c'est un projet qui est redéfini chaque année. Donc, pour l'instant, on est sur.
L'objectif route du Rhum, quand même, logiquement. C'est logiquement.
On en rediscutera cette année, mais c'est pas acté, quoi.
D'accord.
C'est pas acté. Cette année, on est acté pour 2024. Malgré tout, on voit comment ça avance.
Très bien. C'est moi qui mets la charrue avant les bœufs.
Non, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, par contre. Mais voilà, on est prudent dans l'avancée du projet, en tout cas. Et puis voilà. Donc c'est un projet qui s'est renouvelé cet hiver pour un an et dans lequel on va rediscuter cette année pour voir si clairement, enfin la prochaine étape s'il y a reconduction, c'est clairement la route du Rhum, puisque si proche de l'événement. Voilà, qui est pas forcément non plus très confortable personnellement, ne pas avoir une vision à N plus 1.
Ouais.
Donc voilà, donc il y a des
et sportivement pour le sponsor aussi.
Ouais, et à la fois pour tout le monde, il y a des choix à faire, ça reste quand même un projet onéreux, hein, clairement, hein. Donc voilà, il y a chacun a ses contraintes et ses envies et donc on voit comment on avance, mais en tout cas, on a un super projet avec les moyens de nos ambitions et on arrive à faire les choses bien. Donc, c'est un projet dans lequel je m'épanouis complètement. Ouais.
Ouais, t'as dit à Tippenschaft toujours, parce que je relis nos interviews avant de venir préparer. T'as dit je ne pouvais pas rêver mieux.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Quand on propose un projet avec un budget et qu'on propose une construction de bateau et qu'on nous dit oui, que derrière on a un projet avec qu'on propose un programme sportif et qu'on nous dit oui. Après, voilà, hein, on n'est pas milliardaire, on n'a pas non plus de l'argent à dépenser à foison, et encore, ce qui permet justement d'être raisonnable et appliqué au quotidien pour justement gérer le budget et se faire des nœuds au cerveau. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, sur le projet, j'ai un préparateur à temps plein à côté de moi, mais c'est tout. On reste hyper hyper raisonnable et complètement pragmatique dans notre projet pour pas dépenser un euro de trop. Donc voilà, et ça forme aussi, hein, c'est hyper intéressant. Donc non, on a un projet qui est top, qui permet de faire les choses bien mais sans trop, quoi. Voilà,
très bien. Eh ben, on va te souhaiter de continuer à avoir des saisons aussi denses que toutes celles que tu nous as racontées. c'était vraiment hyper intéressant. Merci pour ton temps et pour tous ces détails. Je pense que pour tous les, notamment, je pense aux jeunes qui nous écrivent souvent et qui, il y a beaucoup, beaucoup de matière à apprendre sur comment on gère un projet, on le prépare et voilà, il n'y a pas
beaucoup. On a tous notre histoire.
Exactement, tout à fait.
Qui se construit au jour le jour.
Salut Fabien, merci beaucoup.
Ouais, bah merci. Au revoir, à bientôt.
Salut.